Adriana.
Il a dit 10 fois qu'il en avait marre. Comment? Non. Oh, mais je sais pas. Il y a Florence ici qui joue très bien de sa
clavier.
Et le taillé. Saxophone, batterie. On va aller la chercher. Du saxophone et de la batterie. Mais c'est où le tableau?
Là-bas, mais personne ne sait un peu.
Qui est-ce qui fait la cuisine?
Ben mais non, il y a des feuilles à l'entrée pour s'inscrire. Il faudrait.
J'attendais le retour de scène. Bon, on y va. Donc, les animaux dans les cirques. Si j'ai mis ça, c'est uniquement parce que si hier on m'avait demandé un nom, je me serais mis petit cochon timide.
Attends, juste un truc. Qui c'est qui veut prendre les notes pour. Ah non, pas pour les tours de parole, je pensais pour le compte rendu.
Ouais, si on m'avait demandé un nom hier indien, j'aurais dit petit cochon timide, donc c'est pour ça que j'ai mis à table, c'est pas pour mettre une séparation entre vous et moi, c'est simplement pour poser ça, pas avoir la tremblante. Parce que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice et ça me. Ah bon, vous excuserez si je suis pas. C'est pas mon truc, quoi, voilà. pour commencer, je voulais dire que c'était quand on m'a demandé d'intervenir. Donc, si on m'a demandé d'intervenir, c'est parce que j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans à One Voice en tant que responsable de campagne sur les cirques. Donc, j'ai eu l'occasion de faire une campagne et aussi d'être en contact avec les gens du cirque, faire des investigations, caméras cachées, etc. Donc, c'est un milieu que je pense connaître à peu près, en tout cas. Pour pouvoir partager des choses avec vous. Et ce que j'aimerais bien, effectivement, je vais vous parler, j'ai fait quelques lignes pour orienter le débat, mais surtout que ce soit quelque chose d'interactif, où non seulement vous pouvez m'arrêter pour me dire si vous avez soit posé des questions, soit apporté des témoignages, et que ce soit quelque chose, un partage, pas quelque chose uniquement dans un sens. Alors, tout d'abord, je voulais signaler qu'il y a, que les animaux, tout comme les animaux de labo, les animaux d'élevage, n'existent pas. Les animaux de cirque n'existent pas non plus. Il y a simplement des animaux dans les cirques, et je pense que c'est quelque chose d'assez important. On m'avait proposé justement de faire une conférence sur les animaux de cirque, et je crois que le problème, et c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est que l'animal de cirque, par essence, n'existe pas. Il y a bien des animaux enfermés dans les cirques. Alors, ce qui me paraît important, c'est tout d'abord de faire une petite présentation historique du cirque, parce que l'origine du cirque, en fait, à mon avis, est très importante à comprendre pour remettre dans le contexte aujourd'hui, peut-être dans le combat qu'on peut avoir par rapport à ce genre d'établissement. Le cirque moderne tel qu'il est né en fait au milieu du XVIIIe siècle, a été inventé en Angleterre par un certain Philip Ashley, en 1768 exactement, à Londres. Donc avec le principe de la structure, avec une piste ronde, et avec un diamètre de 13 mètres. Le diamètre de 13 mètres ne correspond pas au hasard, c'est la longueur en fait de la chambrière. Le rayon de la chambrière fait donc 6 mètres 50. La chambrière pour les chevaux. Et en fait, l'avantage... Alors, le cirque est né autour du cheval. D'ailleurs, c'était un sergent de cavalerie, Philippe Ashley. Et l'avantage de la piste ronde, si elle est ronde, c'est simplement une question de force centrifuge qui permet au cavalier de rester debout sur son cheval. Et ce qui est aussi l'avantage pour tout ce qui était jongleur, ce qui était funambule, etc., où finalement, il y avait une vision de 360 degrés, plus ou moins, pour le public qui pouvait voir qu'il n'y avait pas de truc derrière et qu'effectivement, les gens étaient des vrais artistes, entre guillemets. Donc, première constatation, c'est déjà que le cirque est né autour du cheval. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est ancré dans la tradition. C'est pas pour ça qu'il faut l'accepter, d'ailleurs. Et la mobilité est venue plus tard, en fait. Le cirque était déjà statique, donc notamment ce qu'on appelle les cirques en dur. Je crois qu'il en existe à Paris. Je sais pas s'il y a des Parisiens ici. Le cirque d'hiver, je crois que c'est. Voilà, donc ça, c'est des anciennes structures. Et ensuite, c'est devenu itinérant au fil du temps. Le premier à être entré... Alors, il y a toujours eu des zoos ou des établissements qui avaient des animaux sauvages, mais pas dans le cadre du cirque. Donc, peu à peu, il y a certains zoos, si vous voulez, certaines ménageries qui sont installées comme ça autour de ces structures en dur. Et en 1831, il y a eu un gars qui s'appelait Martin qui a eu l'idée de rentrer dans la cage voilà, pour montrer la force avec les fauves. Voilà. Et en fait, c'est seulement fin 19e siècle que la cage centrale, donc je ne sais pas si vous avez déjà été au cirque tous ou pas, non ?
Oui.
Donc il y a une cage centrale, enfin, vous l'avez déjà certainement vu tous, avec les tigres et les lions. Donc ça, c'était inventé en fin 19e siècle par William Hagenbeck. Voilà, donc la première chose, c'est de montrer déjà que le cirque est né autour du cheval. Et il n'y avait pas d'animaux sauvages au début. Alors le contexte historique de l'époque est très important. Il faut voir que le monde était scindé en deux. D'ailleurs, ça n'a pas énormément changé, ça a évolué. C'est-à-dire qu'il y avait un partage impérialiste du monde, et notamment au XIXe siècle. Il y a deux pays notamment qui se partageaient à peu près le monde, c'était la France et la Grande-Bretagne, qui vont conquérir, donc à travers toute une vague de colonisation au XIXe siècle, 99% de l'Afrique, 75% de l'Asie et 100% de l'Océanie. Donc ça va être vraiment le côté impérialiste, et ça va être je crois que c'est la seconde vague de colonisation. C'est la période aussi où c'est la triomphe de la science, un triomphe entre guillemets, donc Pasteur, Claude Bernard, donc c'est une avancée, des découvertes. C'est le progrès technique, l'invention de l'électricité, le moteur à explosion, le téléphone et les grandes expositions universelles. Et notamment, il y a eu à cette époque quatre expositions universelles à Paris. Donc les premières expositions universelles ont commencé milieu 19e siècle et jusqu'au début 20e, il y en a eu, je crois, trois ou quatre à Paris. C'est la même chose aux États-Unis, donc avec le côté, je ne sais pas si vous connaissez le discours de 1854 du chef Seattle, c'est exactement ça en fait, c'est la prédominance aussi des Blancs qui vont peu à peu conquérir le monde, notamment le monde indien. Avec cette phrase, nous le savons, la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Donc c'est un petit peu la même chose qui se passe en Europe. Et en 1856, vous allez voir que tout ça a une raison si je vous dis tout ça, à mon sens. En 1856, on découvre dans la vallée du Néander, donc en Allemagne, le squelette de l'homme, donc dit de Néandertal. Et cette découverte va finalement aiguiser vraiment la suprématie donc, d'un homme pensant face aux animaux et aux peuplades primitives. On va avoir un vrai décalage qui va se faire, qui va nous rappeler d'ailleurs tous les propos d'Aristote, de Platon, donc sur l'homme pensant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Aristote, qui à mon avis est beaucoup à l'origine du problème animal aujourd'hui. Aristote, c'est vraiment le côté... d'un côté, il y a la suprématie de la raison, qui a plus ou moins été repris après aussi par l'Église chrétienne, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, puis ensuite des gens comme Kant. Et à côté, il y avait les simples d'esprit, les peuplades dits primaires, il y avait les femmes aussi, les esclaves et les animaux, bien sûr. Donc avec cette découverte de Néandertal, on va revoir du coup cette vague de l'homme pensant et une suprématie qui va se mettre en place et donc qui va aiguiser la curiosité pour le sauvage et l'étrange. Et d'un coup, ça va être une folie, donc à travers ces expositions, pour le sauvage et l'étrange. Et il y a un homme qui va apparaître, donc c'est un marchand qui s'appelle Karl Hagenbeck, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui est un marchand en fait allemand. Qui travaille notamment sur le port d'Hambourg et qui va en fait avoir en 1875 l'idée d'organiser les premières expositions, ce qu'on appelle les ethno-shows, c'est-à-dire les premières expositions d'hommes dits. Moi j'aime bien le peuple racine comme mot, mais il y en a qui diraient peuple primaire, enfin bon. C'est-à-dire ça peut être des Lapons, ça peut être des Nubiens, des Égyptiens du Soudan, et qui ont été présentés dans des jardins zoologiques, et avec chacun de ces représentants de ces pays ont été ramenés les animaux. Donc avec les Lapons ont été ramenés les otaries, les morses, les Nubiens on a ramené des girafes, les Mongols on a ramené les chameaux avec, etc. Donc ils ont été présentés par exemple en 1875 au jardin d'acclimatation de Paris, par exemple. Ça a été une grande folie, à tel point qu'il y a plein de numéros qui se sont mis en place, qu'on appelle les ethno-shows, puis ensuite les zoos humains, etc., qui sont mis en place. Pardon ?
Nous qui appelons ça aujourd'hui les ethno-shows, à l'époque, ce mot, c'est un mot aujourd'hui, quoi.
Ben, je sais pas, moi je l'ai retrouvé plusieurs fois, visiblement comme nom d'époque. Ouais, bizarrement, ouais. Mais c'est une bonne question. J'étais étonné aussi parce que ça fait très English.
Oui, mais ça fait très éthique, le show, c'est vraiment notre vocabulaire.
Mais probablement, ouais, je sais pas. Mais j'ai retrouvé plusieurs fois ce mot-là, donc c'est. Je sais pas si ça connaît. Puis donc, ça a été des Esquimaux, des Mongols, des Aborigènes, etc. Les justifications étaient exactement les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui pour les cirques ou pour les zoos. C'était la justification pédagogique, bien entendu. Donc, la justification pédagogique, c'est toujours la même justification. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Man to Man dernièrement. Non, c'était... Oui, c'est ça, Man to Man avec... C'est ça, oui, donc ça, ça vous donne un petit Donc ça vous donne un petit peu l'ambiance pour ceux qui l'ont vu de l'époque où là, effectivement, c'était les deux pygmées, je crois. Hein, c'était deux pygmées, c'est ça.
Oui, c'était pas mal, mais j'ai pas vu le film.
Voilà. Bah, moi, je disais... Donc voilà, c'est tout à fait ce genre d'ambiance, donc impérialiste. Je dis que ça n'a pas totalement terminé, même si ça a évolué, mais enfin on en est encore un peu à cet impérialisme. Mais à l'époque, c'était vraiment aiguisé et reconnu en tout cas. Donc tout ça pour dire, voilà, l'arrivée des animaux sauvages est étroitement donc associée à cette histoire coloniale, donc du Second Empire, à cette colonisation de l'Afrique et de l'Asie. Et si je vous dis tout ça, c'est très ça me paraît important, c'est ma vision, hein, vous pouvez ne pas la partager, et elle est peut-être totalement fausse, chacun a sa vérité. Donc, je résume, le cirque, dans sa forme dite moderne, est né en 1768, mais par rapport à tout ce que je viens de dire, l'arrivée donc, des animaux sauvages avec tous les ethno-shows, l'impérialisme, c'est simplement milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire un siècle après. Ce qui veut dire, et c'est pour ça que j'en viens là, c'est-à-dire que l'arrivée des animaux sauvages dans les cirques n'est pas né avec le cirque, mais un siècle plus tard, et est arrivé, et directement la résurgence, le résultat de la colonisation. En fait, donc, quand on voit les animaux, c'est exactement ça, c'est encore une image de la colonisation de l'époque.
Une des traductions de la colonisation.
Voilà. Sauf que maintenant, effectivement, les zoos humains ont fini, quoi qu'on pourrait dire, Love Story et autres conneries comme ça, c'est à peu près, on revient vers une sorte de prostitution humaine, si on veut, mais bon, à la limite, les gens sont d'accord. Voilà, c'est un petit peu une autre forme de zoo humain, si on veut, mais enfin, disons qu'en tout cas, ça a été fin 20e siècle, tous les ethno-shows, tous les zoos humains ont été terminés, tous les frics aussi. Vous avez entendu parler des frics aux États-Unis. Ouais. Ça a duré à peu près jusqu'à milieu du 20e siècle.
C'était quoi,
frics. Frics. F-R-E-A-K-S. Donc aussi avec les gens pas, qui n'ont pas de bras, les femmes troncs, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, il y a un super livre qui s'appelle Zoo Humain, pour ceux que ça intéresse, avec un texte de Baratet là-dessus. C'est... Je ne sais pas s'il est encore trouvable, ce livre.
Un texte de Baratet qui fait le lien entre
les animaux. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Ça s'appelle Zoo Humain, le livre, c'est un recueil de plein de textes. Ouais. Voilà, donc je pensais que c'était intéressant de vous remettre quand même l'origine pour... Moi, je pense que les animaux sauvages sont vraiment liés à cette histoire impériale. Donc ensuite, l'exploitation animale s'est étendue, les cirques sont devenus itinérants, et le sommet de l'exploitation de l'animal sauvage dans les cirques, c'est les années 20, 1920, donc notamment avec un numéro qui s'appelait La paix dans la jungle, d'Alfred Court, qui présentait 8 lions et lionnes, 4 ours polaires, un ours du Tibet, 3 tigres et 2 chiens ensemble. Vous voyez le genre de truc. Il y avait aussi des gorilles, chez Bouglione par exemple, il y avait des gorilles. Donc il y a eu vraiment cette explosion du cirque donc dans les années 20, années 30. Il y a eu la guerre, et ensuite après-guerre, les années 70-80, ça a été le déclin. Alors c'est vrai que je vais concentrer plus sur les animaux sauvages, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas une problématique par rapport à l'animal domestique, mais c'est un choix aussi de présentation, c'est aussi parce que je me suis plutôt occupé des animaux sauvages, c'est aussi parce que si on a une chance de gagner quelque chose, à mon avis, c'est certainement pas sur les animaux domestiques actuellement, mais ce n'est pas dire que la problématique n'existe pas. Donc, années 1970-1980, le déclin, la disparition d'enseignes, les enseignes Amar, Medrano, etc. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, où est-ce qu'on en est dans les cirques? Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de gorilles. Dans les cirques français, il n'y a pas un seul gorille. Il n'y a plus d'ours polaires, donc on voit qu'il y a quand même des avancées. Il n'y a plus de grands troupeaux d'éléphants. On en trouve encore aux États-Unis, mais des troupeaux de 20 éléphants, de 10 éléphants, ça n'existe plus en France, en tout cas. On trouve principalement, enfin on va revenir, je vais dire un petit peu ce qu'il y a actuellement dans les cirques français.
Mais il n'y a plus parce que c'est des interdictions ou des gorilles par
exemple. Ça devient trop compliqué aussi d'avoir. Et il y a des interdictions aussi. Il n'y a pas d'interdiction d'espèces particulières, justement, c'est ça le problème. Il n'y a pas d'interdiction pour l'instant d'espèces particulières, mais c'est aussi une question de... par rapport au public, ce qui peut déranger le public, je pense.
C'est très cher aussi, hein.
Mais bon, il faut voir aussi Enfin, j'ai vu un petit peu dans quoi les affaires sont les cirques à côté. Je veux dire, ils ne rendent pas leur argent qu'avec le public. C'est un peu.
Mais c'est-à-dire, c'est interdit avec les
télé
français. C'est cher,
c'est. Oui, c'est cher, tout à fait. Alors, comme je vous dis, il y a Amar, Medrano et tout ça qui ont disparu fin 70-80. Et pourtant, aujourd'hui, on voit le cirque Amar, le cirque Medrano, le cirque Pinder et tout ça. Et c'est, à mon avis, c'est tout à fait symbolique du cirque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cirques ne tournent qu'avec des fausses enseignes. Et comme ils tournent sur un mode colonial, et ça, c'est quelque chose, je vais y revenir plusieurs fois, ils tournent sur un mode colonial, c'est-à-dire un mode qui n'existe plus aujourd'hui, même si on a un nouvel impérialisme, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près un siècle en retard. Ils sont aussi 50 ans en retard, c'est-à-dire qu'ils utilisent des enseignes de gens qui n'existent plus. Donc c'est vraiment un monde d'illusion totalement.
Pardon ? Ils ont été vendus comme des marques, un truc comme ça.
Tout à fait, mais c'est une sorte de publicité mensongère. C'est-à-dire que les gens vont voir un cirque Zavata, et c'est pas Zavata qui est derrière. Le cirque Amar, c'est la famille Falk qui est derrière. Le cirque Medrano, c'est Raoul Gibault. Le cirque Pinder, c'est la famille Edelstein. Comme vous savez, Jean-Richard est mort. La famille Zavata, alors les cirques Zavata, il y en a 20-30. C'est les familles Prin, Falk, Hart, Beautour derrière. Le cirque Christian Grus, c'est encore la famille Falk, c'est-à-dire qu'en fait les gens vont voir un Zavata, un Grus, et ça montre encore, c'est comme le colonialisme, ça montre encore ce décalage entre le cirque actuel et finalement ce qu'il y a derrière. Il y a quelques exceptions, alors je dirais Arlette Grus, Alexis Grus, où effectivement c'est bien Arlette et Alexis Grus qui sont là, et Bouglione, c'est à peu près les trois tenants pour l'instant qui sont à peu près dans une cohérence au niveau familial. Donc je résume. Je résume en gros, donc on a un cirque d'écuyers, funambule, jongleur, donc au début, qui est devenu finalement colonial de plus en plus, introduction des animaux sauvages. Un cirque qui n'a pas su évoluer avec son histoire et qui a perdu son identité, finalement un cirque qui vit vraiment dans le passé. Donc passé de par l'illusion sur les enseignes, sur la publicité, donc on attire finalement avec ce qui n'est plus, donc avec les noms Zavata, avec finalement des familles qui sont plus, ce qui fait rêver les gens. Alors c'est vrai que Zavata, c'est un nom un peu comme on trouve en Italie, comme on trouve des Durand en France ou des Dupont. Donc en fait, vous avez des Zavata qui relouent leur nom à l'année. Donc C'est pas illégal, disons, mais c'est très malhonnête par rapport au public. Il y a un décalage donc sur l'histoire, comme je disais, décolonisation, il y a quand même eu une décolonisation depuis, et pourtant. Et on a un public maintenant qui s'ouvre petit à petit par rapport à la biodiversité, et pourtant, les cirques, eux, vont continuer dans ce modèle colonial et de colonisation et de suprématie blanche et de l'homme sur l'animal et sur les peuples primaires. Et on a un décalage entre la représentation et la réalité des animaux. Alors là, c'est là que je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc on voit finalement que le cirque aujourd'hui est vraiment un cirque de paillettes et de strass, une sorte de cirque musée qui... j'ai pas trop peur de dire que c'est un cirque à l'agonie, et avant de venir, je l'ai pas écrit dedans, finalement j'ai appris qu'il y a le cirque, je sais pas si vous connaissez le cirque Maximum, qui a notamment deux éléphantes, Betty et Tatcha, qui ont été des éléphantes prises dans le Zimbabwe dans les années 80, qui a été vendue aux enchères à Gien dernièrement. Donc c'est vraiment... Les éléphants, par contre, je sais pas où ils sont pour l'instant. Mais donc on voit vraiment l'agonie, c'est-à-dire que les cirques, il y en a un autre qui a été vendu aux enchères entièrement aussi, donc c'est un monde qui est vraiment en train d'agoniser, mais qui est en train de tenir malgré tout, mais dans une agonie qui dure depuis 30 ans.
Il faut tout de même dire quand même qu'il y a une renaissance du cirque par une voie complètement différente.
Oui, avec, oui. Hein, et vous avez raison de le dire.
Tout le monde dans le même paquet, quand même, pour dire que le cirque aujourd'hui, ça veut aussi dire quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire des spectacles avec des gens qui ont une formation et qui produisent vraiment un travail.
Il y a 350 compagnies actuellement de cirque dits nouveaux, mais il faut savoir qu'à peu près 95% du public va sur le cirque ancien. C'est un public comme d'élite qui est sur le cirque moderne, il faut quand même être réaliste par rapport à ça. Pardon ?
T'as dit combien de public dans les cirques anciens ?
C'est du 90-95%. Je veux dire, le cirque dit moderne, cirque plume, cirque archaos. C'est quand même, c'est quelque chose d'intellectuel et qui est quand même une élite, et c'est pas le côté populaire quoi, en fait, c'est
réaliste. À côté de chez moi, il y a
aussi
le Kino en ce moment, il faut un tabac, tout est complet.
Ah ouais,
c'est un cirque moderne, 500
amis. Kino ?
Kilos.
Non, Kinos, il est plein d'animaux.
Hein ?
Kinos ?
Kilo.
Kinos, ouais.
Kino ? Non, parce que Kinos, il est bourré d'animaux, c'est sûr. Kinos ?
Kilo. Kilo. Non, Kilo. Kilo, comme un kilo.
Ah, comme un kilo.
Kilo.
D'accord. Parce qu'il y a le terme kino aussi, K-I-N-O, qui a énormément d'animaux, c'est pour ça.
Ah non,
c'est kilo.
Il n'y a pas d'animaux, c'est compagnie.
Kilo. Bon, globalement, si on regarde au niveau des chiffres, il y avait une étude de Dominique Forêt qui était... Oui.
Les entrées, c'est qu'une mesure. Enfin, effectivement, la plupart des compagnies qui se créent, c'est des cirques sans animaux. Et il y a même une guerre avec un mépris des entrées en cirque avec des animaux sur nous, on est le vrai cirque, et on
va. Oui, tout à fait.
Mais ils sont en train de disparaître vraiment, les gros cirques. Même si les entrées continuent, ça va se résumer à 3% à nous.
Tu prends en compte les entrées payantes ou le nombre de personnes qui assistent?
Le nombre de personnes. Les entrées payantes, en plus, les cirques dits modernes sont beaucoup plus chers que les autres.
Et il y a beaucoup, ils font aussi beaucoup de spectacles gratuits, spectacles de rue achetés par les communes.
Les cirques modernes?
Ouais.
Oui. Non, les cirques à l'ancienne.
Les cirques modernes, je crois. Ah, ouais.
Mais donc ça se développe, mais pour l'instant, il y a quand même un grand décalage.
C'est pas évident de compter le nombre de spectacles.
Enfin bon, c'était dans un rapport de Dominique Forêt là-dessus. Enfin, en tout cas, il y a quand même un gros décalage par rapport pour l'instant. Il y a plus de compagnies de cirque moderne que de cirque dit traditionnel, tout en sachant qu'il n'y a quand même pas une garantie 100% qu'un cirque moderne n'ait pas d'animaux du tout. Il y a le Cirque du Soleil qui est le grand modèle cirque sans animaux, qui a quand même eu un spectacle avec des serpents. Donc c'est quand même quelque chose où il faut aussi être vigilant. Bon, Archaos, ce sont des motos, donc ça va, il n'y a pas trop de risques, mais le cirque plume, lui, s'est présenté ouvertement contre la présence d'animaux, mais ce n'est pas une évidence non plus à 100%. On peut trouver certains animaux domestiques. Voilà, Bartavas, Zingaro, c'est des chevaux. Donc, bon,
après... Des chevaux, des voies, des chiens, moi j'ai vu...
Les chevaux, c'est pas sans poser de problème, c'est le problème de la réquestre en général.
Et des oies aussi.
Oui.
Ouais. Moi, je pense que les animaux qui sont chez Bartavas sont en sorte. Pas trop de soucis pour eux, mais...
Je me fais du souci pour les chevaux quand même, parce que la réquestre, c'est un autre problème, et c'est un problème en tant que tel. Un chien, après, je sais pas, ça dépend de la complicité qu'il peut y avoir, mais... Mais les chevaux, c'est la réquestre, ça veut dire qu'ils passent quand même leur vie dans des boxes, quoi, donc... Enfin bon, voilà, donc actuellement, en France, il y a à peu près quand même 200 compagnies de cirque traditionnelles. Donc en termes d'animaux, il y a une trentaine d'éléphants, il y a environ 500 tigres et lions quand même, il y a une dizaine d'ours, donc principalement des ours bruns, 200-250 singes, donc macaques, babouins principalement, qui sont des animaux qui se reproduisent beaucoup en captivité, des chimpanzés, des bonobos, notamment le cirque Kinos, qui est le seul en France à avoir, même les zoos n'ont pas de bonobos et c'est le seul qui a des bonobos, qu'on a 11, notamment avec aussi des croisements chimpanzés-bonobos. Donc si vous voulez voir des bonobos, c'est le cirque Kinos. Hein.
Ça donne envie.
Ça donne envie. Une douzaine d'hippopotames. Quoique il y a un déclin actuellement, des autruches, d'autres ratites, donc il y a quoi, des nandous, des émeus, enfin on a à peu près toute la collection, des zèbres, un rhinocéros blanc qui traîne, sur le cirque Frank Zerata qui s'est rebaptisé Louis Zerata, ce qui fuit un petit peu les. Il fuit un petit peu le. Ça, c'est un aspect que j'ai pas développé, le côté légal des choses, si ça vous intéresse, mais disons qu'il y a. Il fuit un petit peu les. Les rencontres de la direction de service vétérinaire ou de l'Office national de la chasse, donc ils fuient en permanence, ils changent de nom en permanence un petit peu pour pas qu'on puisse les suivre. Une dizaine d'otaries, trois girafes, etc. Donc voilà à peu près le plan, 200 cirques avec tous ces animaux actuellement. Je n'ai pas fait le total d'animaux que ça fait, mais ça doit en faire à peu près 800 000 animaux. 800-1000 animaux, 10 sauvages, donc à peu près dans les cirques en France. D'après mes calculs. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple, simplement, parce que je ne vais pas faire le... Pour vous montrer qu'il y a un décalage entre la réalité de l'animal et la représentation, encore ce même décalage entre les cirques, ce qu'ils présentent et la réalité. Je vais prendre un exemple d'un animal, parce qu'on ne peut pas tous les faire. Après, si vous voulez apporter votre expérience ou poser des questions par rapport à une autre espèce, on peut essayer ensemble. Je vais vous prendre l'exemple de l'éléphant. Pour vous montrer que la vie de l'éléphant et ce qu'on lui propose en cirque, il y a encore un décalage et que finalement ce qu'on veut montrer est encore ce qui entre dans ce strass et paillettes, tout comme l'aspect colonial et tout comme l'aspect enseigne publicitaire finalement qui est fausse. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu l'éthologie de l'éléphant ici, non ? Comportement ? Bon. Alors, si je me trompe, tu me dis. Alors, l'éléphant est un gros animal.
Ouais,
ça, vous savez ?
C'est quoi ?
C'est un gros animal. Ah oui, j'ai parlé. En France, la trentaine d'éléphants. Sur la trentaine d'éléphants, j'ai fait un calcul. Il y a à peu près. On est un peu à l'envers en Europe par rapport aux données européennes. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 17 éléphants d'Afrique et 13 éléphants d'Asie. Il y a une petite différence par rapport à l'éthologie. Je vais faire un package éléphant général, mais donc globalement, il y a un tout petit peu plus d'éléphants d'Afrique en France. Donc l'organisation des éléphants est une organisation sociale très très développée. Donc ce sont des animaux grégaires, c'est-à-dire qui vivent en groupe, même en harde d'ailleurs chez les éléphants, et qui ont vraiment un contact entre eux qui est très important. Si vous regardez les films animaliers où vous allez sur place, vous verrez que ce sont vraiment des hardes d'éléphants. Si vous numérotez les éléphants, vous allez voir qu'il y a vraiment une hiérarchie sociale qui existe et un contact très très important. Et si vous allez dans un cirque pour vous amuser, pas non pour prendre des photos, et vous m'envoyez les photos, j'en aurais besoin. Il ne faut jamais y aller pour s'amuser, il faut être utile en même temps. On trouve pas mal d'éléphants qui sont seuls. Donc on pourrait citer le cas de Sinda, qui est l'éléphante de chez Alexis Grus, une éléphante d'Asie, dont je vous parlerai encore après. De l'éléphant de Samba, dont vous êtes entendu parler, donc du Continental Circus, qui a changé de nom d'ailleurs entre-temps, et qui est une éléphante d'Afrique, donc qui a été capturée au Kenya dans les années 90, je crois, 96 ou un truc comme ça. Il y a un éléphant d'Afrique qui s'appelle Baby, qui est loué au cirque Roger Lanza, qui est tout seul aussi. Il y a un éléphant d'Afrique du Indra, qui est au cirque Louis Zavata, celui qui a le rhinocéros blanc. Il y a l'éléphant Dumba, je crois que c'est une éléphante d'Asie, chez Stéphane Zavata. Il y a l'éléphant de Kenya, qui est chez Alain Zavata, qui est une éléphante d'Afrique. Donc vous voyez, ce sont que des éléphants qui sont seuls, alors que c'est un animal qui est grégaire et qui, par essence, sa vraie nature, c'est vraiment de vivre en harde. Donc déjà, un décalage. Ensuite, on a aussi quelques éléphants qui sont ensemble, ils sont quelques-uns, mais ils sont attachés en rang d'oignon, les uns à côté des autres, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire ce groupe social avec une hiérarchie particulière, et notamment c'est une hiérarchie basée sur le matriarcat, où la femelle dirige, là, on les met en rang d'oignon. C'est le cas notamment chez Pinder, avec deux éléphants d'Asie, Saba et Delhi notamment, et Kamela, Lechi et Mina, qui sont chez Midrano, donc qui sont trois éléphants d'Asie. Donc première chose, l'aspect social n'est pas du tout respecté. Moi, je ne veux pas faire d'un côté, il y a des méchants et nous des gentils. Je veux dire, les gens du cirque, ils ne sont pas plus méchants, ils essayent de vivre ce qu'ils sont, ils sont dans une tradition père-fils, etc. Ce ne sont pas des sadiques non plus, il ne faut pas non plus vouloir faire des monstres ou quoi que ce soit. Il y a le problème de l'itinérance, il faut être franc et il faut voir les choses en face. Pose un problème qui ne permet pas au cirque, en fait, de mettre les choses en place, finalement, pour répondre aux besoins de l'animal. Donc je dirais pas que c'est une méchanceté des gens du cirque qui disent on veut pas que le groupe social soit créé, etc. C'est que c'est le fait de l'itinérance qui fait de toute façon qui pose problème. Déjà dans les zoos ils n'y arrivent pas, là dans les cirques, raison de plus. Autre caractéristique au-delà de l'organisation sociale, c'est le nomadisme. Il faut savoir que les éléphants est un animal nomade. Il a une morphologie qui est adaptée au nomadisme, puisque c'est un animal qui peut faire entre 15 à 1500 qui peut parcourir de 15 à 1500 km². Et faire jusqu'à 17 km de marche par jour. Donc c'est énorme. Donc effectivement, vous allez me dire, si dans un cirque, c'est pas grave, il marche pas, il a tout à disposition. Le problème, c'est que sa morphologie, elle, est adaptée au nomadisme. Or, dans les cirques, comme vous avez vu, soit ils ont un petit enclos qui est rikiki, qui doit faire un quart, un tiers de cette pièce, soit ils sont enfermés dans des camions, le 4 Samba par exemple, ou alors souvent ils sont attachés en diagonale, donc patte avant, patte arrière inverse. Pourquoi patte avant, parenthèse, pourquoi la patte avant et la patte arrière inverse, est-ce que certains savent?
Non. Je n'ai pas compris, ça veut dire quoi?
Parce qu'il, si je parle trop vite, il faut me dire, parce que je parle souvent vite.
Non, mais
il marche à
l'angle.
Pardon?
Il marche à l'angle.
Non.
Ah, parce qu'il marche ensemble.
On attache toujours la patte et inverse droite. Non, c'est pour pas qu'il se couche, en fait. C'est impossible de se coucher si vous avez les pattes inverses qui sont couchées. C'est tout. C'est très bête. Pour des questions de poids, notamment sur le foie. Mais sur l'estomac. Et je vous expliquerai pourquoi après, c'est un aspect important. Voilà, donc je pense à Betty et Tatcha, donc les deux justement du cirque ont été vendus, donc qui passent leur vie dans le camion et qui sont attachés comme ça. Donc le nomadisme, ben, vous voyez, pareil, il y a un gros décalage sur une morphologie qui est adaptée au nomadisme et on leur propose quoi? Le statisme. La présence de l'eau. Essentiel chez les éléphants, ça c'est un aspect très très important. L'eau pour les éléphants, c'est le plaisir déjà, parce que ce sont des animaux qui prennent du plaisir aussi à être dans l'eau, qui peuvent avoir, alors les chiffres, c'est 2,1 à 2,6 heures par jour, d'après les spécialistes, entre guillemets, à faire de la baignade. Pourquoi? Pour des questions de parasites, pour des questions d'hygiène, pour des questions de sociabilisation, pour des questions de plaisir, comme je disais. Donc l'eau a un accès fondamental, 2h30 par jour, c'est quand même énorme, un accès fondamental dans la socialisation de l'animal. Vous allez dans les cirques, il n'y a pas d'eau du tout. Voilà. Pareil, c'est parce qu'ils sont dans les camions, parce qu'on ne peut pas faire des piscines, piscines gonflables avec un éléphant. Faut mieux pas. Et ensuite, c'est aussi une question de pratique. Mais il y a une autre raison, et je vous le dis maintenant, l'abreuvement est toujours très limité dans les cirques, et si vous allez dans les cirques, vous verrez toujours qu'il n'y a pas d'eau. La raison, j'ai mis pas mal de temps à savoir pourquoi. Un éléphant qui boit est un éléphant qui pisse. Exactement, vous avez tout à fait trouvé. Donc, en gros, on leur donne à boire très tôt le matin et très tard le soir, parce qu'un éléphant qui pisse sur la piste, en plein milieu du public,
ça fait un océan.
Ça fait un océan, ça pue sous le chapiteau, et c'est une horreur. C'est pas très commercial, donc, rappelez-vous, un éléphant qui boit est un éléphant qui pisse. Or, c'est essentiel pour un éléphant de boire, donc on ne les fait pas boire et on les restreint. Autre problème, la sexualité. C'est un problème aussi assez important, et notamment pour tous les éléphants d'Afrique et les éléphants mâles d'Asie, ce qui est un petit peu différent pour les éléphantes d'Asie, ce qu'on appelle le problème du mush, je ne sais pas si certains connaissent. Donc au niveau des glandes temporales, c'est-à-dire entre l'œil et l'oreille, vous allez voir parfois une sorte de sécrétion qui coule. Et en fait, c'est un liquide visqueux donc, qui est un préliminaire de l'accouplement. Et c'est quelque chose qui est une sorte de parade nuptiale, si on veut, en résumant un petit peu, par rapport à l'éléphant. Et vous verrez, autant dans les eaux et tout ça, vous verrez ce côté mush qui coule, c'est donc ce liquide visqueux qui... Et donc, dans la nature, ça peut durer au maximum un mois. Et ensuite, si ça couple, vous voyez ça, c'est toujours le préliminaire. Par contre, en captivité, c'est quelque chose qui peut durer jusqu'à 11 mois par an. C'est-à-dire, en gros, tout le temps. Et qui est accentué, et pendant ces périodes, il y a un problème, c'est que l'animal qui est donc frustré, parce qu'il peut pas séduire, il ne peut pas ensuite arriver à passer à l'acte, devient agressif, devient dangereux, et devient très 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 très, mais alors vraiment très très irritable. Et c'est pour ça que si vous allez sur le site de l'APITA, vous avez des listes d'accidents avec des éléphants. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de l'éléphant, c'était sur l'île de... Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet éléphant qui s'était évadé, qui avait été tiré, ils avaient envoyé 36 balles dessus, enfin, c'était à Honolulu, je crois. Il était sorti du cirque en furie, il avait... Oui, il y a quelques années déjà. Enfin, donc, problème sexualité, c'est-à-dire que le milieu encore du cirque, autre problème par rapport à la réalité de l'éléphant et par rapport à ce qu'on lui offre, c'est-à-dire qu'il y a une restriction assez importante sur sa réalité et encore une non-acceptation de ses besoins physiologiques. Dernière chose, parce que je n'ai pas offert toute la morphologie de l'éléphant, j'ai pris les points qui me paraissaient le plus important, enfin, ce n'est pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. C'est la morphologie, et c'est là que ça me paraît le plus rigolo. Enfin, moi, ça me fait rire, ça peut-être pas vous faire rire. Morphologie qui est adaptée. Non, on a une morphologie d'éléphant qui est adaptée à son milieu. Voilà. Donc c'est bête, mais une trompe, bah, la trompe, ça permet de brouter à l'éléphant, donc il attrape notamment les végétaux avec sa trompe. Une trompe, ça permet d'atteindre les hautes branches. Une trompe, ça permet de creuser des trous pour trouver notamment des points d'eau, mais aussi des minéraux, donc pour les éléphants. C'est une sorte de radar aussi, une sorte d'orientation avec la trompe. C'est vraiment un outil extraordinaire, la trompe de l'éléphant. La trompe est aussi une arme. Et la question, c'est que cette trompe qui sert de tant de choses en nature à l'éléphant, à quoi elle sert dans le cirque? Elle ne sert strictement à rien. Si ce n'est qu'à reconnaître que c'est un éléphant. Les défenses. Et c'est intéressant de voir ce point, c'est-à-dire le décalage qui existe. Les défenses servent à quoi chez un éléphant? Alors, il y a le côté arme, il y a le côté défense. Mais les défenses servent aussi à déterrer les racines, à faire levier, à faire valoir aussi donc, sa place de dominant. À quoi servent des défenses d'un éléphant en cirque? À rien. Les oreilles sont essentielles chez les éléphants, notamment chez les éléphants d'Afrique. C'est un régulateur thermique. À quoi elles servent en captivité? Et donc ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est de voir que la claustration dans le milieu artificiel rend l'anatomie, donc la nature même de l'éléphant, donc la trompe, dépourvue de toute utilité. De voir que finalement cette trompe, cette oreille, ces défenses qui sont un petit peu les symboles de l'éléphant, ne sont plus que des symboles, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'une image d'un éléphant virtuel, qui n'est plus donc dans une hiérarchie sociale, qui n'est plus dans le côté nomade, qui n'a plus son activité sexuelle normale, qui n'a plus, je sais plus ce que je disais, mais... qui n'a plus non plus cet accès à l'eau, etc. Enfin, tout le côté normal de l'éléphant, toute cette utilité aussi de cette morphologie ne sert plus à rien. Et finalement, le cirque propose quoi? Il propose une image du cirque. Et on voit dès lors qu'il y a encore un décalage entre le cirque et la réalité de ce qu'il a. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des animaux qui ont donc tout ce comportement, toute cette utilité, tout ce qu'ils sont profondément au niveau naturel. Et le cirque va faire quoi? Il va montrer une image du cirque.
Pour les propriétaires de chiens, si on peut appeler ça propriétaire, mais ça fait deux jours qu'on a souvent des chiens dans tous les sens qui se gueulent dessus, qui se battent, c'est insupportable. Enfin, personnellement, je trouve ça insupportable. Ouais. Donc, il faut faire quelque chose, soit vous répartissez la garde des chiens, vous les retirez, mais on ne va pas passer une semaine à avoir des combats de chiens qui attendent que des battes.
Donc, ce que vous voyez, c'est que ce qui me paraît important, après c'est pareil, c'est une vision tout à fait personnelle, mais c'est que le cirque ne propose qu'une image d'un animal, mais qui est complètement défait de son comportement, défait de sa nature, qui n'est plus rien. Et finalement, maintenant il y a des vidéos, alors finalement ils proposent l'image, et on va voir que non seulement ils vont proposer une image fausse de l'animal, purement visuelle, mais en plus ils vont la déformer, et là on va voir au niveau du dressage. Alors je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà intéressés au dressage en général. Le principe du dressage notamment, c'est la coercition. Alors pareil, moi je ne veux pas rentrer dans ce truc où il y a des méchants dompteurs qui veulent absolument taper leurs animaux, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'ils ne tapent pas sur leur animal par plaisir. À mon avis, ils tapent non parce que ce sont des méchants sadiques ou quoi que ce soit, c'est aussi, en gros, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont qu'à faire autre chose. Disons que le fonctionnement amène à ça, ce n'est pas une question de sadisme gratuit, il y a toujours des zigotos dans le tas, mais parce que le dressage, ils ont en face des molosses qui pèsent quand même plusieurs centaines de kilos, jusqu'à 1200 kilos, ça se garde pas comme ça avec une laisse ou quoi que ce soit. Donc il y a un moment, il faut effectivement se marier à une autorité. Une autorité, ils n'ont pas le choix. Le principe, c'est la coercition. La première coercition, ça rejoint tout ce que je vous ai dit avant, c'est la dénaturation de l'animal. Donc déjà, c'est un élément perturbateur pour l'animal. C'est-à-dire que l'animal n'a plus ses repères, et notamment le repère du groupe social. Dénaturé, il n'a plus ses repères, il est perdu. Comme vous, on vous met dans une pièce ou dans un lieu que vous ne connaissez pas. C'est ce qui m'arrive hier en arrivant au festival. Je suis perdu, donc tout de suite, je suis plus fragile. Voilà. Ça dépend des gens. Il y en a qui s'adaptent bien, moi...
Ça
voilà.
Va mieux.
Hein?
Ça va mieux.
Ça ira mieux quand je partirai.
On peut partir aussi. Hein.
Non, donc voilà, c'est. Non, c'est là. Donc voilà, c'est la même chose. Donc l'éléphant, en fait, on lui retire tous ses repères, groupe social, on lui retire l'accès à l'eau. Donc c'est aussi une première façon de faire une coercition. Deuxième coercition, donc c'est ça, c'est la restriction à l'eau, mais aussi la restriction à la nourriture, qui est dès lors vue comme une récompense. Donc deuxième façon aussi de tenir le poids sur l'animal. Et la troisième, qui est souvent la plus exploitée par les associations de défense animale, mais il y a un côté sensationnaliste qui n'est pas toujours faux, notamment on nous dit que les ours, on les fait danser sur des plaques chauffantes. J'ai quand même essayé, je me suis dit, bon, c'est des arguments, moi, je suis retourné exprès voir les arguments pour dire, on nous sort des arguments, voyons les racines. J'ai vu effectivement où on trouve ça. Le livre où on parle des ours, on les fait danser, 1907. Je veux dire, utiliser ce genre de choses qui a quand même un siècle, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi être honnête et arrêter de... pour être cohérent, quoi. Je veux dire, mais bon, les associations reprennent ce genre d'arguments, ça leur fait plaisir. Je pense que si nous, on n'est pas cohérent, on n'a pas une honnêteté, je dirais, dans le présent aussi par rapport à ce qui se passe, il n'y a pas d'un côté des méchants sadiques qui font peur. Enfin bref.
Tu expliquais les différents modes pour se mettre à l'animal, c'est ça?
Oui, oui, donc, tout à fait. Donc, il y avait, je disais, la dénaturation de l'animal, donc le retrait de son groupe social, etc. La restriction de la nourriture donc, et de la boisson qui est vue comme une récompense. Et la troisième chose, c'est faire plier l'animal par la douleur. Ça existe, donc notamment par un appareil qui s'appelle un ancus. Alors, c'est pas ça. C'est beaucoup plus long, je sais pas si vous l'avez vu, avec une sorte de pointe acérée, une petite pointe en l'air comme ça. D'ailleurs, j'en avais commandé une quand j'étais à One Voice avant de démissionner. Et je l'avais commandé aux États-Unis et je leur avais demandé qu'est-ce que vous me conseillez comme ancus. Donc, c'était des spécialistes de du dressage des éléphants. Et ils m'ont conseillé effectivement une ancus. Ils m'ont dit comme ça, quand ça rentre dans la chair et qu'il y a la blessure, ça ne s'infecte pas dans la blessure de l'animal. Vous voyez le principe. Effectivement, c'est hyper lourd, c'est hyper impressionnant. Et...
comment ça s'appelle ?
Un ancus, A-N-Q-U-S. C'est une pointe acérée en fait, donc avec une petite pointe qui sort à l'extérieur et une comme ça, qui est souvent déguisée sous forme de soit des petits, une sorte de petites fleurs au bout, des petites paillettes des petites lanières en tissu, et comme ça les gens voient une sorte de petit bâton avec une fleur, ils savent pas que derrière c'est un super truc acéré. Et c'est utilisé chez Pinder, hein, il suffit de regarder, les gens le voient pas, c'est pendant le spectacle avec beaucoup de finesse. Il y a l'éléphant qui va faire son exercice et puis le dompteur avec beaucoup de grâce fait ça, allez, et en fait il est en train de lui donner un coup derrière la patte et personne ne le voit parce que c'est hyper discret. Donc il s'agit pas de dire tiens derrière ils vont taper leur éléphant, ils le font pendant les exercices de dressage très certainement, mais je veux dire ça se fait pendant le spectacle pour rappeler à l'animal. Je l'ai vu chez Alexis Gruss par exemple, qui est pourtant soi-disant un modèle. L'éléphante Cinda devait marcher sur des plots de bois en fait, et à un moment elle a refusé de marcher, c'était pendant les répétitions qui étaient ouvertes au public. Ben, je lui dis hop, il l'a remis à sa place et voilà, derrière l'oreille et comme ça discrètement, et personne n'a rien vu quoi. Mais moi je l'ai pas vu, c'est en voyant la vidéo que je l'ai vu. Et en fait effectivement c'est bien derrière l'oreille, pourquoi? Parce que la peau est sensible, et derrière la patte, les pattes avant, donc juste à l'angle, uniquement parce que la peau est sensible, et c'est le commencement des tétines chez les éléphants, donc c'est hyper sensible.
C'est
à ce niveau là non. Mais il y a déjà des éléphants qui sont. C'est plus savant en général. C'est-à-dire que ça rappelle, pendant le spectacle, ça rappelle à l'éléphant, c'est moi qui le suis chef, rappelle-toi de la douleur. Le but, c'est ça. Mais effectivement, on lui fait connaître l'expérience de l'ancus, donc de cette pointe acérée, pendant les répétitions. Et ensuite, on lui rappelle et l'éléphant s'en rappelle. Je vais y revenir après, je ne sais plus, je crois, mais je vais vous le dire tout de suite. Alors vous allez me dire, mais ce qu'on va faire à l'éléphant, on va lui faire des exercices dont je vais parler qui sont souvent très douloureux. Mais pour qu'il aille faire quelque chose qui est douloureux, il faut qu'il se dise, bah, si je ne le fais pas, il y aura quelque chose encore plus douloureux. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'avoir un dressage, obligé entre guillemets, qu'ils sont obligés d'avoir un dressage qui est très douloureux, c'est pour dire à l'éléphant, si tu ne fais pas cet exercice douloureux, parce que tu vas prendre, ce sera encore plus douloureux. Donc il faut que ce soit au-delà du problème, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc effectivement, donc l'éléphant donc a beaucoup de raisons pour refuser de faire ces numéros, donc notamment tous les numéros qui sont contre nature.
Et pourquoi elles sont contre nature? Ce qui montre encore tout à l'heure ce que je vous disais par rapport à l'image, on montre une image d'un éléphant qui n'est plus du tout par rapport à sa propre nature, mais en plus on va le dénaturer, notamment pour faire une surenchère, c'est-à-dire que quelqu'un qui va voir un éléphant qui se balade comme ça dans le cirque, ça n'intéresse personne, il faut faire une surenchère médiatique, donc on va les faire faire des choses. Alors, fumer le cigare, ça je ne l'ai jamais vu en France, ça se fait en Belgique, mais on peut leur faire, surtout c'est les mettre sur les deux pattes arrière, comme ça, assis. C'est les mettre en poirier. Alors le poirier, par exemple, selon les éthologues notamment, ça donne des blessures aux articulations des coudes et des genoux et aux disques intervertébraux. Vous imaginez tout simplement tout le poids du corps, donc tête comprise, sur les deux pattes, sur les deux membres avant. Bah, c'est pas vraiment fait pour ça, hein. C'est des centaines et des centaines de kilos qui sont appuyés sur deux membres. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu un éléphant qui, dans la nature, doit descendre un petit peu une pente. Il ne descendra jamais la pente comme ça. Il va plier plus ou moins et puis il va plus ou moins descendre sur le derrière parce que ça lui fait mal devant. Alors qu'est-ce qu'ils s'amusent dans les cirques? Ils s'amusent à le mettre sur le poirier. Et donc, bah, effectivement, il y a des problèmes de fissures au niveau des ongles, des disques intervertébraux, etc. Et il y a même Samba, d'ailleurs, au Continental Circus, que j'avais filmé sur les genoux, carrément. Donc, il a fait ce qui est complètement... d'un point de vue naturel, enfin, c'est la folie totale, hein, je trouve. La position assise ou la position sur les pattes arrière, qui se fait beaucoup aussi. Donc, dans la nature, ils peuvent se lever un petit peu comme ça pour aller chercher dans les branches. Mais je dis, c'est quelque chose qui est très rapide. Or, là, on va les faire marcher sur les pattes arrière. Donc j'ai vu ça chez Maximum, à la Zavata, etc. Et on disait tout à l'heure, vous me demandez pourquoi on ne les fait pas coucher, je vous disais que c'était par rapport au diaphragme notamment. Effectivement, quand l'animal se met debout comme ça, il y a tout le poids qui se pose sur les intestins, notamment. Et là, il y a des problèmes, des gros problèmes qui peuvent causer des hernies, donc chez les éléphants. Et si vous observez dans les ménageries, et, je vous avais filmé chez Zavata justement, et Maximum par rapport à ça, systématiquement, ils sortent leur ancuse dans la ménagerie avant et ils obligent les animaux à déféquer. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Pareil, à force de chercher, j'ai compris pourquoi. En fait, c'est un truc de cirque. C'est-à-dire qu'on les oblige, avant d'entrer en piste, à déféquer, simplement pour leur vider les intestins, parce que les intestins sont pleins. Et c'est déjà arrivé qu'en plein spectacle, tout explose de l'éléphant, tous les intestins, en fait, parce qu'il y avait encore des excréments. Donc, on vide l'éléphant et on le force à pisser et à déféquer avant d'entrer en piste. Et ça, personne ne le voit. Ah ouais, c'est ça éclate, ouais, carrément. Donc c'est pas très bon pour le public. Donc voilà, donc pour en fait obliger l'éléphant à faire toutes ces positions qui sont très douloureuses pour lui, et ben il faut que la douleur soit supérieure de la punition s'il le fait pas. Donc c'est avec cet appareil qu'on appelle l'encuse. Donc tout ça c'était pour vous dire, pour vous montrer le véritable décalage qu'il existe entre la nature de l'animal, donc ses besoins comportementaux, le groupe social, etc., et ce qu'on lui impose. Donc pour finir, donc par rapport notamment aux pathologies et troubles du comportement. Donc les pathologies, comme je vous disais, il y a des hernies, des arthrites, etc. Il y a du surpoids aussi qui est largement vu. Il y a une étude de la WISPA qui est sortie là-dessus. Surpoids donc dû à un régime trop riche et à un manque d'exercice. Et d'ailleurs, vous avez des morts prématurées au niveau suite à des problèmes cardiaques chez pas mal d'éléphants. Vous avez Vourza, je ne sais pas si vous avez entendu parler, dans le Nord. Je ne sais pas s'il y a des gens du Nord, non ? Vourza, qui est une éléphante qui avait 25 ans, donc qui est morte d'une cardiomyopathie au cirque Arlette-Grusse en novembre 2003, donc c'est pas vieux. Ben voilà, les journaux annoncent, ben y a un éléphant qui est mort, voilà, c'est pas grave, mais en fait à 25 ans c'est assez jeune pour un éléphant qui vit 65 ans à peu près. Ben en fait c'est une cardiomyopathie, j'ai appelé le vétérinaire et bon. Et c'est tout à fait dû à ça, donc surpoids et manque d'exercice, mais ça bon, le cirque nous fait sa petite larme. Oui, il est mort. Bon, voilà, c'est triste. Mais en fait, ils ne disent pas les raisons. Et les raisons sont toujours les mêmes. Il y a un autre éléphant de Zavata qui est mort en 99. Quand on voit qu'il y a quand même 30 éléphants, ce qui n'est quand même pas énorme en France. Et déjà, je vous en cite deux de Zavata et de Grusse qui sont morts en 99-2003 des mêmes raisons. Je veux dire, c'était quand même statistiquement, ça commence à faire beaucoup. Il y a le problème. Alors, comment savoir qu'un éléphant est mal ou pas? C'est, je ne sais pas si vous savez qu'un éléphant tisse, ce qu'on appelle tisser. Tisser, ça veut dire, je vais le faire physiquement. J'adore faire ça. Voilà, et vous les voyez toujours sur ça. Alors, si vous allez chez Arlette Grusse, ils vous diront, ah bah, l'éléphant est en train de se préparer pour aller danser. C'est ce qu'on entend dans les ménageries. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle les stéréotypies, c'est-à-dire des troubles du comportement. Donc, ce que les éthologues appellent passivité, soumission et dépression. Et en fait, comme dit Fred Kurt, qui était un. Non, c'est Laborie, pardon. Laborie dit un système nerveux, c'est fait pour agir. Ben, le système nerveux doit agir. Or, l'éléphant étant dans la claustration et dans l'interdiction d'être ce qu'il est, et ben, il va penser d'une façon ou d'une autre. Vous allez dans les hôpitaux psychiatriques pour humains, vous trouverez exactement les mêmes symptômes qu'on appelle les stéréotypies. Et d'après les éthologues, et je prends souvent cette référence, Wemmels-Belsder, qui est donc une éthologue, dit la stéréotypie est la preuve d'une souffrance chronique. C'est des animaux, en gros, qui sont devenus fous. Fred Kurt, qui est spécialiste des éléphants d'ailleurs en Suisse, dit un éléphant qui bouge comme ça, on peut le rapprocher de la folie humaine. Donc en gros, tous les éléphants que vous voyez dans les Sioux sont des animaux fous. Si on veut résumer, c'est à peu près ça.
Est-ce qu'ils peuvent être soignés après ?
Non, ils sont foutus. Non, c'est triste, mais. Et vous allez dans les zoos, c'est le même problème. Vous voyez tous les éléphants qui ont à peu près ce genre de pathologie. Donc. La folie, ça conduit à quoi ? Ben, 1964, vous allez me dire, c'est un peu vieux, mais c'est quand même quelque chose qui aura dû marquer la mémoire. Le cirque Amar, donc il y avait les frères Amar, Mustapha Amar notamment. Il y avait trois éléphants du cirque Amar à Béziers qui se sont barrés du cirque, qui ont tué un enfant de 4 ans. Pris de folie, en France. Voilà, ça, disons, on n'a pas tiré la leçon. D'ailleurs, vous avez trouvé ces éléphants, il y en a un ou deux qui sont au cirque, au zoo de la Tête d'Or à Lyon. Vous avez des éléphants qui sont complètement tarés aux zoo de la Tête d'Or, là, qui sont en train de.
J'ai vu qu'ils faisaient ça.
Bah, c'est les cirques à Mars, c'est deux éléphants qui sont des.
Ils ont l'air très très mal. Bah, c'est pour l'espace, enfin,
mais c'est les pauvres buts du cirque à Mars, de 1964.
Oui, ils ont un peu d'espace qu'ils n'utilisent pas, ils sont sans cesse eux-mêmes.
Ah, mais ils sont. Ouais. J'ai un témoignage de l'an 2000 de Maxime Sénéca, ça c'est un charmant monsieur. Du cirque Louis Zavata, celui qui a le rhinocéros, c'est une mafia lui tout seul. Il a Indra en fait, une éléphante d'Afrique, et il dit l'éléphante c'est la bête la plus dangereuse par son intelligence. Le père de mon beau-frère a été tué par son éléphant il y a 2 ans. Un jour l'animal a chargé, il s'est réfugié dans une petite maison, mais l'éléphant a fait tomber la maison et l'a tué. L'éléphant s'est vengé. Ce sont des choses qui arrivent car beaucoup de dresseurs battent leurs animaux. Moi, j'ai une famille, j'ai peur de ma bête, je sais qu'elle peut se venger. Sous-entendu, moi, je bats mes animaux. Bon. Voilà, donc c'est encore hein, quelqu'un qui a été tué par son éléphant il y a 2 ans, et lui, ça c'est la réalité des gens du cirque, et j'en ai parlé avec pas mal d'entre eux, je veux dire, ils ont tous les boules de leurs éléphants, comme ils ont relativement peur aussi de leur tigre, c'est pas le même, ils ont tous ce problème avec leurs animaux de toute façon. Je vous disais que je vous reparlerai aussi de Sinda, qui est l'éléphante du cirque Alexigrus, pardon, qui est une éléphante d'Asie, et qui en fait je ne connais pas bien Paris, c'est le bois de Vincennes, hein, où il y a les cirques souvent à Noël. Je ne sais pas. Enfin bon, tous les cirques viennent, Pinder, Arlexigrus, Alexigrus viennent tous à Noël sur Paris. Et en 99, comme vous savez, il y a eu la tempête. Et la pauvre Sinda s'est retrouvée toute seule sous son chapiteau, dans son petit carré. Elle n'était pas attachée, mais elle était vraiment dans un truc très restreint. Il y a eu la tempête, et pris de panique toute seule. Il n'y a pas du tout ce contact où elle pourrait avoir avec d'autres congénères, finalement. Il y a quelque chose qu'elle avait déjà un pet au compteur parce qu'elle était seule, parce qu'elle n'avait pas ce groupe social, elle avait déjà ses troubles comportementaux. Mais il y a vraiment eu un pet au compteur et elle a vraiment. La pauvre bête, finalement, elle est. Ça a aggravé son problème, et depuis ce moment-là, son dompteur, Alexigrus, a commencé à avoir des problèmes avec elle. Et il l'a pu vraiment utiliser pour les spectacles, et puis finalement, il l'a pris pour un spectacle qui devait se monter, qui était un opéra de la Flûte Enchantée, et l'a loué pour un spectacle avec un metteur en scène qui s'appelait Claude Santelli. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un metteur en scène parisien qui monte des spectacles, des opéras. Et il a utilisé Sinda donc pour ce spectacle. Et Sinda devait porter le metteur en scène dans sa trompe comme ça. Et elle l'a porté, puis arrivé en hauteur, elle l'a lâché, il est mort. Voilà. Donc ça c'est en 2001, un des derniers accidents de cirque qui est important, mais sans aucune raison elle l'a lâché, c'est une sorte de vengeance, quoi, un ras-le-bol. Donc voilà, et depuis cet éléphant, vous pouvez la voir au château près de Valence, là-bas, elle croupit. Donc elle fait ses spectacles, c'est elle que j'avais filmé d'ailleurs avec les coups de pique, enfin bon c'est... Voilà, donc ça c'est le genre de... Depuis 90, près de 200 accidents ont été référencés à travers le monde. Donc ça fait en 15 ans. 200 accidents avec les animaux dans les cirques. Plus de 65 morts, quand même. Je sais pas si c'est que les cirques, je pense qu'il y a les zoos compris aussi. Hein. Je vais pas dire bêtises, je pense qu'il y a les zoos. Et je pense que les chiffres sont très en dessous, parce que dès qu'il y a un accident dans les cirques, généralement on le mentionne pas, parce que ça fait pas beaucoup de pub. Là j'ai appris juste avant de partir, comme quoi c'est assez fréquent. En Espagne aussi, un éléphant qui est devenu fou dans le nord de l'Espagne, qui s'est barré du cirque. Voilà, il était rattrapé donc au bout de 20 minutes par la police. Mais encore, c'est encore un cas donc proche qui s'est passé. Il y a un journal espagnol qu'on a parlé, mais je dis après personne n'en parle. C'est le côté. Il faut avoir des gens un peu malades pour aller chercher ce genre d'infos.
Excusez-moi, avez-vous Sinda ?
Sindal est, suit le cirque Alexis Grus, mais en été, le château près de Valence, près d'Orange.
Ils n'ont pas le fait qu'elle ait tué un humain, ils
sont pas. Non, elle continue toute seule de son truc, mais au ralenti, visiblement. Ils essaient de ne pas la mettre trop avec le public. Conclusion, parce que je vais pas. Donc, si vous avez d'autres questions après par rapport à d'autres animaux. Voilà, donc la conclusion, c'est que, comme je vous disais, le cirque est en décalage donc, par rapport à son époque. La décolonisation, on y est passé depuis longtemps. Par rapport à son image, donc les enseignes qui sont plus Amar, Medrano, Zavata, ce que je vous disais. Par rapport à la législation, ça c'est un gros décalage. J'ai pas du tout mis là-dedans, mais ça on peut en parler parce que c'est. Enfin, c'est un sujet que je connais malheureusement pour avoir fait pas mal de procès avec les gens du cirque. Et par rapport à la nature de l'animal, donc qu'ils hébergent. Donc c'est le cirque en fait est un établissement à l'agonie car en perpétuel décalage et tout n'est qu'illusion. Et finalement, je pense que la survie de ces spectacles itinérants ne repose pas sur grand chose en fait. Elle est maintenue finalement par un public effectivement qui est assez naïf et qui continue à y aller, mais qui heureusement est de plus en plus conscient. Donc c'est vrai qu'il y a une baisse du public et ça devient de moins en moins rentable. Donc il suffit que certains cirques soient bien placés, ils ont pas mal de spectateurs, mais globalement le public commence à bouder ce genre d'endroit. Et les pouvoirs publics finalement, une sorte de laxisme. Alors il va y avoir une révision d'un arrêté du 21 août 1978. C'était un arrêté qui légiférait les parcs zoologiques, donc avec des normes de parcs zoologiques. Les lions doivent avoir telle superficie, doivent avoir accès à l'eau et patati patata. Et dans cet arrêté du 21 août 1978, les cirques sont compris dedans. Et la phrase est très rigolote puisqu'ils disent en fait les cirques doivent s'adapter sous réserve de pouvoir s'adapter du fait de leur itinérance. En gros, sous réserve, faites ce que vous voulez, de toute façon vous êtes itinérant. Vous voulez. Donc il y a une révision suite à la. C'est vrai que la campagne a quand même servi à ça pour lancer une révision. Donc l'arrêté a été révisé, toute la partie zoo. Et pour la première fois en France, va sortir une partie spécifique au cirque. Et ça, c'est une première. Et donc il faut essayer que maintenant cette partie spécifique soit le plus. Draconienne possible. Voilà. Alors moi je me suis toujours battu non pas pour mettre des normes de bien-être particuliers, mais des normes d'interdiction d'espèces, parce que je pense qu'il faut commencer par des interdictions d'espèces. Après c'est ce que je disais hier. Si on n'interdit pas je pense que c'est une question d'échelle. De toute façon, on ne peut pas, de façon réaliste, dire du jour au lendemain, il faut interdire tous les animaux sauvages dans les cirques. Je pense qu'on peut avoir la volonté de dire, il faut interdire, mais 500 tigres et 500 lions, je vous mets au défi de les replacer. C'est totalement impossible. Moi, j'ai mis 6 mois à replacer une lionne, c'est un enfer. Il n'y a pas de place nulle part. Je voulais l'envoyer en Afrique du Sud, j'étais obligé de faire revenir sur la décision. Est-ce qu'on n'est jamais sûr que ce n'est pas un game farmer? C'était un super parc pour lions, mais visiblement il y a quand même des chasses de gens qui viennent d'Europe ou d'Amérique pour se faire les lions de temps en temps. Il n'y a aucun endroit vraiment sûr en fait, et puis 500 tigres et lions, personne n'en prend. Pareil, j'ai replacé Achille du cirque Amar à l'époque pour trouver une place. Il est parti aux Pays-Bas, je veux dire, c'était 6 mois de recherche. Enfin, on ne les replace pas, donc ça peut être qu'une extinction progressive des espèces. Donc ce que je pense, personnel après... J'avais un peu un désaccord par rapport à One Voice par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut une extinction progressive en disant il faut l'abolition totale des animaux sauvages dans les cirques par extinction. Et donc on va mettre comme une échelle des normes au fur et à mesure pour arriver en fait à cette extinction. Donc déjà des normes, entre guillemets, un mot que je déteste, des normes de bien-être. Pour les éléphants, je pense qu'il faut absolument par contre essayer de replacer d'urgence tous les éléphants. Notamment d'Afrique et les éléphants mâles d'Asie pour la raison du mush notamment et aussi pour des raisons donc du mieux par exemple Samba, je pense qu'il n'y a pas de campagne à faire sur Samba, mais interdire déjà les éléphants d'Afrique, et ça je pense que c'est faisable. C'est un gage d'arriver à replacer 17 éléphants, mais je pense qu'il faut essayer de se mettre en ça cet objectif déjà, et ensuite une extinction progressive avec urgence pour certains animaux comme les ours et les chimpanzés. Le gouvernement donc prévoit, je vais vous lire ce qu'ils répondent en fait, parce qu'il y a eu pas mal de députés qui ont envoyé des lettres suite à des rapports qu'on avait envoyés. La détention des animaux sauvages au sein des cirques doit être compatible avec les objectifs de protection et de protection des personnes. Donc c'est vrai qu'on lit l'article L214.1 du Code rural. Après ça, Sébastien, tu connais bien, c'est l'article ridicule. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Voilà, donc si on regarde ça, tous les animaux dans les cirques sont dans l'illégalité, tous les animaux d'élevage sont dans l'illégalité, tous les animaux de laboratoire sont dans l'illégalité. Donc c'est un article, je veux dire... par rapport à ce que je vous dis sur l'éléphant, je veux dire, si on regarde le côté compatibilité des impératifs biologiques de l'espèce, on voit que l'éléphant n'est pas du tout dans des conditions compatibles. Voilà, donc le gouvernement répond à ce titre, certaines espèces ne peuvent pas être entretenues correctement au sein de ces structures. Ainsi, depuis plusieurs années, les autorisations administratives précitées ne sont pas octroyées pour certaines espèces présentant des inconvénients majeurs dans les cirques. Il s'agit notamment des hippopotames, des rhinocéros et des girafes. Donc actuellement, les trois espèces qui devraient être interdites, et c'est, j'espère qu'avec la décision belge, ça ne va pas remettre ça en cause, mais on avait obtenu au moins les hippopotames, les rhinocéros et les girafes. C'est pas grand-chose, mais ça fait 12 hippopotames, 3 girafes et un rhinocéros. Je crains malheureusement que ça soit interdit, mais que ces animaux, en tant qu'animaux particuliers qui sont là, soient plutôt décalés dans un autre pays. Mais il y aurait ces trois espèces, et ensuite... Je pense que ce serait gagnable, il faudrait essayer d'avoir pour les chimpanzés, les ours et les éléphants d'Afrique. Je pense que c'est les seules espèces gagnables pour l'instant. Voilà, mais le ministre, comme vous savez, on a toujours des ministres de l'écologie qui sont assez remarquables, nous répond par rapport... Oui, vous avez tout à fait raison par rapport aux éléphants, notamment j'avais fait un rapport sur les éléphants de cirque. Vous avez tout à fait raison par rapport aux éléphants. J'étais voir en plus avec... je ne sais pas si vous connaissez le spécialiste Pierre Pfeffer, donc on lui avait demandé de venir avec nous accompagner justement pour... lui, c'est un spécialiste international des éléphants, donc au moins il ne parle pas comme moi, qui suis une petite personne lambda, je veux dire. Lui, au moins, il connaît les éléphants, il était voir sur place, c'est le spécialiste mondial des éléphants, et il est venu porter la voix de l'éléphant en disant « dans les siècles, c'est une aberration ». La réponse du ministère... On est d'accord avec vous, mais l'arrêté tiendra compte des traditions des cirques en ce qui concerne le dressage des animaux et l'aspect culturel de ces activités dans la mesure où elles sont de qualité et valorisent la relation homme-animal. Je vous laisse, voilà. Donc moi, ma conclusion, c'est qu'en gros, il n'y a pas de bon cirque ou de mauvais cirque, comme on essaie de nous faire croire. Il y a des cirques avec animaux et des cirques sans animaux. Donc maintenant, reste à travers les actions qu'on peut faire, c'est d'arriver à ce que cette agonie, pour les gens du cirque eux-mêmes, soyons un petit peu social, puisse terminer, qu'on puisse mettre fin à ce décalage colonialiste qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc si vous avez des questions ou des remarques, on sait. Les serpents, j'ai pas pu les calculer parce qu'ils sont enfermés dans des camions et parce qu'ils sont toujours illégaux, pratiquement, toujours illégaux.
Oui, tu vois pas qu'il y a un grand problème pour les serpents aussi?
Si, bien sûr.
Et comment on pourrait en tenir compte?
C'est pareil.
Qu'on pourrait faire,
C'est pareil, c'est, de toute façon, c'est le problème des besoins physiologiques de l'animal et de ce qu'on lui manque d'activité. Donc en plus, il y a eu des études qui sont sorties sur tout ce qui est serpent, tout ce qui est reptile. C'est le même problème que les nacres.
Alors c'est illégal dans les cirques.
La majorité sont illégaux.
Oui.
Mais ils sont cachés dans des mâles, en fait. Donc ils vivent dans des mâles enfermés dans des camions. Alors, c'est une vie superbe. Ouais.
Alors, je n'ai pas bien entendu, par exemple, moi, le problème des cirques, je trouve ça important en soi, mais je ne peux pas m'empêcher de le ramener au problème de l'exploitation animale en général. Et toi, tu disais, bon, il concerne environ un millier d'animaux.
Ouais.
Et moi, je me dis, mais le cirque, c'est un truc symbolique très fort dans la tête des gens. Et lutter par rapport au cirque, ça peut être un peu comme par rapport au corrida, ça peut être un symbole très fort pour marquer une prise en considération des animaux. Et est-ce que vous avez essayé dans les campagnes que vous avez fait d'appuyer ce point par rapport au public, je sais pas comment vous avez conçu les campagnes en fait, je me demandais.
Notamment, c'était le côté tiré de tous les côtés, c'est-à-dire aussi beaucoup par rapport aux politiques pour que le public se prenne en charge, mais aussi une interdiction des mairies de recevoir les cirques. Parce que les cirques sont pratiquement tous dans l'illégalité. Il faut savoir qu'Arlette Durus vient d'avoir son autorisation d'ouverture il y a 2 ans, quand même. Ça fait le temps qu'ils sont... Donc c'est vrai que du coup, il y a eu beaucoup de villes qui ont interdit l'accès aux cirques dans les villes. Et c'est vrai que je fonctionne aussi beaucoup par communiqué de presse sur les villes où arrivaient les cirques pour expliquer justement ce décalage entre les besoins physiologiques, mais sous le prétexte de dire, parce que pour que les médias attachent et que les mairies attachent, il faut leur donner, un petit peu un nonos, quoi. Donc c'était leur dire, vous avez un cirque illégal, vous prenez des risques, puisque le pouvoir du maire, et c'est ce qui m'intéressait, le pouvoir du maire, il a une obligation, ce qu'on appelle la police municipale, au terme large de police municipale, c'est la sécurité publique. Or, si il reçoit un cirque illégal qui a un accident, il est responsable, et il met en danger sa population. Et ça, c'est le rôle du maire de tenir compte de ça. Donc le but, c'était un petit peu de prendre ce côté, et ça a bien marché d'ailleurs, de prendre ce côté... juridique, législation et illégalité de tous les cirques, je pourrais dire pratiquement tous les cirques sont dans l'illégalité, pour donner l'envie aux gens de la municipalité d'aller en avant et pour communiquer justement sur le bien-être, enfin sur l'être de l'animal par rapport à ça. Voilà. Et c'est quelque chose qui a relativement bien marché puisqu'il y a énormément de villes qui refusaient donc, et qui continuent encore. Du coup, il y a beaucoup de villes qui ont refusé. Les cirques ne savent plus vraiment où aller. Du coup, maintenant, ils se rabattent sur des supermarchés, sur des... Donc le biais était pas mal par là. Et la communication après par le biais de rapports, donc j'ai fait un rapport sur le cirque en général, sur les hippopotames et sur les éléphants. Et donc avec les ministères, du lobbying au niveau des députés, qui a bien marché aussi au niveau des ministères. Et c'est vrai que ce qui m'a permis de voir que c'est une campagne qui a bien marché pendant 5 ans, c'est que c'est la seule campagne où effectivement il y a eu des vraies menaces de mort en face, et il y a eu une réaction quand j'ai eu 4 menaces de mort, et à partir du moment où il passe là, c'est un bon critère pour voir, c'est-à-dire que toutes les autres campagnes il n'y a pas eu de menace de mort, mais dès que les menaces viennent, c'est intéressant, et Gaïa avait eu d'ailleurs aussi, ils avaient reçu une balle de plomb dans une couche culotte, dès que les menaces viennent, ça veut dire qu'on commence à toucher où ça fait mal, donc c'est plutôt rassurant, quoi. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai envie de reprendre aussi maintenant cette campagne et de la continuer, parce que depuis que j'ai démissionné, je fais plus, quoi. C'est vrai que ce que je pense que c'est quelque chose qui est gagnable, et surtout que ils sont à l'agonie, quoi. Il y a vraiment des certains domaines comme ça où je pense qu'il faut vraiment mettre toute sa force, quoi. Ouais. Donc il y a un projet qui se met en place là pour dans les prochains temps là-dessus.
Pour continuer une campagne indépendamment de Rhône-Ouest, tu veux
dire? Ouais. Oui, puisque je ne vois pas la même chose qu'eux, donc... Maintenant, c'est vrai qu'ils ciblent... Je ne dis pas qu'ils ont tort, après, c'est leur façon de voir. Moi, je ne vois pas la même façon, c'est pour ça que je suis parti. Maintenant, leur campagne, c'est autour de Samba, donc de cette éléphante. Qui ne sortira jamais, d'ailleurs, mais bon.
C'est quoi?
Hein?
Pourquoi tu dis ça?
Parce qu'elle est détenue légalement, pour une fois qu'il y a un animal qui est détenu légalement. Et qu'il n'y a aucune raison qu'elle sorte. Je veux dire, déjà, les animaux illégaux, on n'arrive pas à les sortir. Là, je vois absolument pourquoi elle sortirait. En plus, il n'y a pas Enfin, dès le début, c'est moi qui l'avais filmé à l'époque, justement, son spectacle, où la mise à mort, la mise en... Ouais. Alors bon, il y a eu un témoignage, j'avais reçu d'une dame qui avait vu qu'il y avait des actes de cruauté, elle avait été battue devant son enfant, je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire. Voilà, bon, il y a eu des contrôles vétérinaires qui ont été faits... Contrairement à ce qu'il dit, mais il y a eu des contrôles vétérinaires, il n'y a pas de marque particulière, il n'y a pas de marque de mauvais traitement, même si le mauvais traitement est inhérent de toute façon au fait que l'animal soit en captivité, mais on n'a pas d'argument suffisamment, et je pense que le meilleur argument pour sortir Samba, c'est les éléphants d'Afrique en général et pas elle en particulier. Donc stratégiquement, je vais pas dans cette... Après, ils ont peut-être raison, effectivement, je pense que ça peut porter, et la preuve, c'est que les gens sont maintenant... beaucoup de gens n'ont rien à foutre des animaux dans les cirques, mais Samba, ça devient un symbole. Et il faut peut-être, à travers un symbole, effectivement, catalyser les gens. C'est peut-être très juste comme façon de faire, mais moi, ce n'est pas une façon que je partage ou qui me porte, en tout cas. Donc, je préfère sauver Samba, entre guillemets, ou que tous ensemble, on sauve Samba à travers des campagnes pour sauver tous les animaux, tous les éléphants de cirque. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres Samba qui soient derrière. Mais en même temps, c'est vrai que du coup, les gens commencent à être sensibilisés aux animaux de cirque grâce à elle aussi. Donc, c'est une façon de voir les choses, quoi. Mais...
C'est ça la position de Rhône-Ouest, d'utiliser un animal qui représente...
Disons que la campagne cirque a été arrêtée à partir du moment où il y a Samba, ça a devenu campagne Samba. Et j'ai pas accepté du tout, parce que je considère qu'il y avait une campagne cirque pendant 5 ans, qu'il y avait beaucoup de choses qui avançaient, et que arrêter la campagne cirque pour faire campagne Samba, je suis pas d'accord. Enfin, moi, je comprends pas la stratégie, je peux la comprendre, mais je pense que c'est une erreur. Mais je pense qu'il faut mieux se servir de Samba comme un cheval de Troie, pour arriver justement à lever ce côté, parce que les gens, ils ont besoin du côté... sensibles par rapport à un nom, par rapport au regard d'un éléphant, par rapport à quelque chose où ils vont faire toucher la corde sensible. Donc ça peut être un bon catalyseur, un cheval de Troie pour entrer dans le... Après, d'en faire une fin en soi... Bon.
Mais parce qu'ils ont, quand tu dis d'en faire une fin en soi, c'est-à-dire que leur campagne cirque s'arrête à 100 ans.
Bah visiblement, maintenant j'ai l'impression. Ouais. Et si je vois le site, ouais, effectivement, maintenant ils s'arrêtent à 100 ans, donc
ils continuent pas le travail campagne cirque.
Mais de toute façon, c'est pas One Voice particulier. Vous regardez, là je fais une critique générale, mais c'est une critique qui n'engage que moi. Enfin, je sais pas ceux qui connaissent bien le monde de la cause animale. J'en parlerai peut-être demain avec l'expérimentation animale, parce que je pense que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a des associations généralistes, que ce soit One Voice, que ce soit Brigitte Bardot, que ce soit Fondation Associative d'Animaux, SPA, etc., qui font un peu de tout, qui font de tout et de rien, en fait. Il n'y a pas de campagne de fond, quoi. Contrairement à la PMAF, c'est parce que tu es là, Sébastien. Contrairement aux associations anti-corrida, je veux dire, qui fatalement ont des résultats aussi, qui arrivent est-ce qu'elles sont ciblées sur un sujet. Là, ce sont des associations qui vont toutes toucher aux dauphins, qui vont toutes faire les ours en Asie, qui vont toutes toucher quelque chose qui va toucher le public. Je veux dire, on va pas toucher les requins, on va pas faire les souris, on va pas faire les araignées, parce que les gens n'ont rien à foutre. On va toucher les choses qui ramènent de l'argent, qui vont... C'est pas question de ramener du gain, c'est qu'il y a une masse salariale qu'il faut payer dans les associations, il faut être réaliste. Et pour amasser, il faut bien faire des choses médiatiques. Et c'est triste, on en est là, quoi. Et moi, je veux pas rentrer dans ce système. Je dis pas qu'il faut pas faire côté médiatique pour ramener, parce qu'effectivement, il faut payer les salariés qui ont leur utilité. C'est pas une fin en soi, mais qui ont leur utilité. Moi, j'étais payé à One Voice quand j'étais campagneur. Même si on est payé raisonnablement, je trouve. Non, je pense que c'était raisonnable. Franchement, j'ai pas de critique. Enfin, One Voice, en tout cas, c'était tout à fait raisonnable, je trouve. Je pense qu'il y a cette utilité, effectivement, de mettre quelques campagnes phares qui vont être un peu plus médiatiques, qui vont ramener un peu plus d'argent aussi pour l'utilité, effectivement. De toute façon, quand il y a besoin d'ordinateur, il y a besoin de déplacement en voiture, il faut payer des hôtels, même si c'est des hôtels première classe. Quand on fait des enquêtes, faut bien payer quelque chose. Il y a un fonds financier qui est obligatoire, donc qu'on fasse un petit peu des ours, que je parle comme les naturalistes, qu'on fasse des ours, qu'on fasse du dauphin, juste comme ça. Ok, ça marche, mais après il faut pas oublier le reste. Combien d'associations s'occupent de... Où ils font maintenant tous des transports des animaux, je veux dire. On s'occupe plus, à part la PMF, qui est sa spécialité, ils s'occupent plus du tout du problème des animaux. Ils parlent pas de végétarisme, parce que la majorité des adhérents sont pas végétariens. La majorité des adhérents ont des perruches dans les trucs, donc on va pas parler des perruches dans les cages. La majorité des adhérents ont des chiens aussi, je veux dire. On va pas parler du problème de la place du chien, ça surtout, on n'en parlera jamais. Il y a plein de problèmes qui sont occultés, parce qu'il faut pas non plus vexer l'adhérent, il faut pas vexer le... Et le végétarisme, on n'en parle pas, c'est un problème central. Mais on va tous parler du transport d'animaux, limiter le transport d'animaux, on ne va pas parler du transport de carcasses, on va parler que de ce que les gens ont envie d'entendre, finalement. Et le problème des cirques, c'est que globalement, j'ai vu qu'en 5 ans, la campagne a bien marché, je crois, vu les résultats, mais ça n'intéressait pas les gens, le public.
Alors qu'avec Samba, ça a explosé.
C'est terrible.
Mais ils ont des conflits, quand même.
Donc je comprends tout à fait que ça expose qu'il y ait besoin de ça, mais je pense qu'il faut oublier le reste pour autant. C'est essentiel. Je fais 100 balles, ramène des sous, c'est très bien, il en faut. De toute façon, il en fallait pour la campagne, je manquais de sous. Mais
ça remet des sous comment ?
C'est
des dons ?
Ouais. Mais c'est toutes les associations pareilles. Bardot a fait sa campagne d'affichage, pas d'animaux dans les cirques au mois d'août comme ça. Et avant, il n'y avait rien, après, il n'y a rien. Donc à quoi ça sert ? C'est un saupoudrage. Et je pense que ce qui manque, mais ça, c'est ma vision personnelle. Donc c'est pas une critique par rapport à One Voice, je trouve qu'il y a plein d'avantages aussi dans cette association. Mais que c'est. Il n'y a pas de suivi sur rien, quoi. C'est toutes les associations, c'est pareil. C'est un petit peu de faire un petit truc à droite, un peu d'expérimentation à mal, comme ça, et après, quoi. Moi, je suis très, très Greenpeace, parce que je connais bien cette association qui est, pour moi, un modèle de réussite par rapport à sa façon de faire, quoi. C'est extraordinaire comme ils fonctionnent. Ils ont des résultats les uns après les autres, parce que. Il y a 70 000 adhérents en France, ce qui n'est pas énorme. C'est vrai qu'ils sont soutenus par l'international, mais en France, il n'y a pas plus d'adhérents qu'à One Voice ou Bardot. Bardot, je crois qu'il y a plus d'adhérents. Et je veux dire, la façon de faire, c'est depuis 20 ans, ils sont sur le nucléaire, sur les OGM, sur les armes nucléaires, etc. Et ils ne lâchent pas le truc. Il y a des vrais campagneurs qui sont à plein temps là-dessus, qui font que ça, qui sont au lobbying à Bruxelles, qui sont des dossiers, qui travaillent les scientifiques, qui a un côté interactif, et pas le côté d'un seul coup, tiens, on va faire un peu d'OGM, demain on va faire un petit peu de machin, un peu de ci, on va faire un peu de fourrure de notre côté, un peu de foie gras, un peu de machin. Je veux dire, on n'obtiendra jamais rien comme ça. C'est mon avis. Hein, c'est... Et pour les cirques, je pense qu'on peut gagner, mais sur un truc de fond. Et quand je dis de fond, c'est sur tous les plans, donc c'est les dossiers qui permettaient d'avoir une sorte de crédit, les dossiers. Je les ai faits, mais je veux dire, il y a le crédit scientifique derrière, avec toutes les références d'éthologues, de gens comme Pierre Pfeffer, etc., qui sont intervenus pour donner leur savoir en tant que spécialiste. Il y a les témoignages de gens de cirque, il y a les caméras cachées, des gens de cirque que j'ai rencontrés, etc. C'est-à-dire qui donnent aussi un outil et quelque chose de factuel aussi, parce qu'on peut parler des cirques sur les plaques chauffantes. Référence 1907, je veux dire, ça me fait rire aussi, quoi. Et ça, je veux dire, ce genre d'argument est utilisé par toutes les associations, je veux dire, il y a vraiment... C'est un exemple parmi d'autres. Ou alors on les met les gros sadiques, les gens qui battent leurs animaux, c'est l'argument qu'ils utilisent en permanence, c'est faux. Il faut expliquer pourquoi ils font ça aussi. Ouais.
Par rapport aux assos, tu disais, elles n'ont pas de suivi et tout ça, il me semble qu'il y a un truc qu'elles pourraient faire, hein, elles ne font pas, ou peu, vraiment très peu, y compris One Voice qui le fait un petit peu, mais très peu, c'est un truc d'éducation, entre guillemets, auprès de leur public. Hein. Tu parlais du végétarisme, par exemple, One Voice l'a fait, mais un petit peu en catimini quand même, mais l'a fait un petit peu. Mais je trouve que c'est une chose, par contre, où là, il peut y avoir un suivi. C'est-à-dire qu'il y a une relation particulière qui s'établit entre les adhérents de One Voice, par exemple, et puis l'équipe de One Voice, enfin, avec le journal et tout ça, et que ça pourrait servir à ça. Et je trouve que c'est trop peu fait, ça. Mais peut-être, justement, c'est ce problème de clientélisme.
Mais moi, je vois aussi... Peut-être que je me gourre complètement, hein, ce qui n'est pas impossible. Mais par rapport aux deux sujets que je connais à peu près, les animaux dans les cirques et l'expérimentation animale, je pense qu'ils ont une méconnaissance totale des dossiers, quoi. Les positions d'association par rapport à l'expérimentation animale, c'est du délire, quoi. Total. Ils ne connaissent pas le sujet, quoi. Et on reste dans un truc sensationnel à vouloir faire croire des absurdités aux gens. Et dans les cirques, parce que je vous donne l'exemple des ours, c'est un exemple parmi plein d'autres. Je veux dire, c'est... Donc, je veux dire, je veux bien qu'on fasse de l'éducation publique, mais c'est pas pour leur raconter des conneries non plus. Je veux dire, faut être réaliste aussi. Et il y a un côté un peu people, quoi. Le côté people, je sais pas si la PITA le fait, je sais qu'ils ont un côté people, alors peut-être qu'ils sont plus sérieux au fond, mais je sais pas si. Il faut faire attention, je veux dire, qu'on mette un côté un petit peu au niveau de la forme pour attirer les gens, parce que maintenant, on est dans un monde de communication, de consommation, qu'on joue un petit peu là-dessus pour parler aux gens, je suis d'accord. Après que le fond soit erroné, tout ça, pour faire passer des choses comme ça, je suis pas d'accord du tout, quoi. Parce que, tout simplement, parce que s'il y a un argument chez nous qui est cassé, quoi qu'on dise, par exemple, sur les cirques, sur les ours, ben, on a une réponse de quelqu'un des cirques en face qui dit « Non, ça n'existe pas », je veux dire, ce sera lui contre nous, et ben, on vérifiera que c'est lui qui a raison, de toute façon. Effectivement, ça n'existe plus.
Est-ce que One Voice, par exemple, utilisait cet argument?
Ah oui, je me suis tant que j'étais là, non, parce que j'étais contre. Je me suis fou envoyé la tête là-dessus, mais je me suis beaucoup engueulé là-dessus.
Ah ouais. D'accord, ils sont prêts à faire comme ça.
Mais tous, c'est pas OneVoice particulier, tous. Ouais. Et OneVoice a plein de choses dans le bon sens, ils ont des tracks qui sont pas mal du tout, mais il y a plein de choses qui pour moi sont dans le sens social, et c'est tous, ils le font tous. Ouais.
En fait, sincèrement, j'ai l'impression que beaucoup d'associations. Ce qu'ils veulent, c'est faire tourner la méga machine. Ils veulent pas tellement la fin de l'exploitation animale parce que ça veut dire la fin de la sauce, quoi.
Je dirais pas ça. Je suis.
Ils ont tant de jeu, quoi.
Je dirais pas ça. Je donnerai le même excuse pour les gens du cirque, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans un système. Quand je dis les gens du cirque, ce sont pas les sadiques en tant que tels. Il y a des cintrés pour la cause animale. Mais ils sont pris dans un. Quand il y a 15 salariés, vous regardez le prix des salariés sur un an. Ça fait, faut faire rentrer 1 million, 1,5 million, c'est énorme. Mais on ne les fait pas rentrer sans rien. Donc ils sont pris dans une sorte de spirale où pour faire vivre l'association elle-même, le but de l'association est perdu. Finalement, ça devient le but devient la survie de l'association elle-même. Mais c'est pas qu'ils seraient tristes que ça marche plus, parce que je suis sûr qu'ils aimeraient pouvoir faire au-delà. Mais c'est qu'ils sont pris dans une sorte de piège, peut-être par faute de moyens, mais du coup c'est une. Je pense que c'est un vrai piège. Oui. Mais je pense pas que ce soit par volonté de qu'ils seraient tristes si ça finissait. J'espère pas.
Oui, je crois pas. Il y a une organisation, mais je pense que la responsable est morte maintenant, c'est l'OABA, où madame.
Gerbeul.
Qui disait, qui nous avait dit, mais il y a 15 ans, hein, qu'elle n'était pas pour la fin de la consommation carnée, et qui avait rajouté, je pense, de façon humoristique, ça serait la fin de son association.
Elle était végétarienne, non?
Ah ouais.
Ah ouais.
C'était œuvre d'assistance
au bête des bâtards.
Mais bon, je pense que c'était semi-humoristique, et en même temps qu'il y avait peut-être, je sais pas.
Donc je pense que ces associations généralistes, je me fais une autocritique parce que j'étais un petit peu très critique, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé avant, pendant un an le temps de digérer la couleuvre, mais je pense qu'elles ont un vrai rôle d'information du public en général. Après, je crois qu'au niveau campagne, il ne faut pas attendre grand-chose des associations comme Brigitte Bardot, ou alors elles aident les constructions de châteries, elles aident dans les chenilles, elles ont un rôle, etc. Au niveau campagne, il faut attendre plutôt d'associations spécialistes sur le terrain, ou d'organisations comme Stop Gavage, International Campaign, tout ça, qui sont des particuliers qui font des choses, parce que One Voice, qui a une campagne qui était pas trop mal sur les animaux familiers, les quelques petits points comme ça, mais globalement, c'est de l'information, quoi. Ce qui est dommage, parce que ça, au niveau argent, c'est vrai que les associations, enfin, ceux qui font des campagnes de ciblées ont aussi besoin de sous, et malheureusement, ils n'en ont pas tellement, quoi. Avec.
S'associer avec des associations.
Ouais.
Où ça
Il y a un point qui m'a sidéré, c'est la réponse du ministère de l'Agriculture. Tu peux aller ajouter les deux lignes quand vous avez été avec ce spécialiste des éléphants là, pour demander, faire progresser l'idée de faire interdire les éléphants dans les cirques, c'est ça.
Mais ça, l'écologie.
Comment
Mais ça, l'écologie, ouais. Est-ce que c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est faune sauvage captive. Là, c'est une réponse, en fait, vous le trouvez sur Internet, d'ailleurs, hein, c'est suite au rapport sur les éléphants, donc c'est la réponse du ministre, comment il s'appelait, en plus, le dernier ministre avant Nelly, le Pelletier. La détention des animaux, l'arrêté tiendra compte des traditions des cirques en ce qui concerne le dressage des animaux et de l'aspect culturel de ces activités, dans la mesure où elles sont de qualité et valorisent la relation homme-animal.
L'arrêté doit être révisé, c'est ça?
Ça fait 2 ans qu'il est révisé.
Il doit être révisé, mais
Il y a la partie zoo déjà qui est sortie.
D'accord.
Et je devais faire partie des concertations, donc autour de la table ronde, etc. Ensuite, finalement, je commençais à devenir l'élément dérangeant. On m'avait dit globalement parce que je connaissais un peu trop le sujet. C'était un peu ça, quoi.
Est-ce qu'il y avait d'autres...
Ils préfèrent prendre des gens, en fait. J'avais vu ça sur l'expérimentation animale à l'époque avec Philippe Gildas. Il y avait un débat sur... Le problème, c'est ça, de connaître trop les sujets. En fait, tu dois connaître ça, Sébastien. Quelquefois, on peut être refusé. C'est toujours intéressant. Donc, je pourrais t'appeler, moi, sur des sujets comme les élevages, parce que je connais moins le sujet. Là je pense qu'ils accepteraient que j'intervienne. Philippe Gildas avait fait sur Canal+, un débat sur l'expérimentation animale, et il y avait des appels et témoignages pour ceux qui voulaient venir. Et donc j'avais appelé, il y avait Stéphane qui avait appelé et Claude Rass, et tous les trois ont été refusés. Ils nous ont dit non, vous connaissez trop le sujet. Voilà. Donc au ministère, pareil, finalement, le problème c'est qu'ils nous disaient des choses sur les cirques, et moi je leur sortais le nom de l'animal. Je leur disais je pouvais leur parler avec leur prénom de leur animaux. Alors, fatalement, ça commençait à devenir un petit peu dérangeant parce que le ministère, je disais, ils voyaient qu'effectivement ils avaient quelqu'un en face qui parlait pas dans l'absolu, donc ils préfèrent prendre quelqu'un de chez Bardot ou juste comme ça qui connaît pas le sujet, parce qu'à la base, de toute façon, ils veulent donner raison au cirque, quoi. Donc, parce qu'à la base, de toute façon, le ministère veut pas trop se mouiller avec ça, ils veulent donner raison aux gens du cirque, donc ils préfèrent quelqu'un qui connaisse pas trop le sujet.
Donc, et ils Fondation Bardot, la SPA.
Voilà, et puis maintenant One Voice aussi, parce que je dirais qu'ils connaissent pas le sujet qu'ils sont en train de faire.
Il y a un groupe constitué, non? C'est des consultations informelles.
Maintenant, visiblement, c'est plus que les gens du cirque, donc maintenant ils s'arrangent avec eux.
D'accord. Et l'arrêté, tu penses qu'il va sortir, ou justement il a plus de raison de le faire maintenant?
Si, il va sortir, mais pour fin de l'année, début de l'année prochaine, pas avant. Mais d'où l'intérêt, j'aimerais bien pour la rentrée.
Sans l'interdiction d'espèces de langue. Parce que toi, tu penses que c'est la stratégie à suivre,
Moi, je pense que les trois espèces, maintenant qu'ils l'ont écrit, j'espère. Enfin, je pense qu'il faut surtout défendre pour les hippopotames, girafes et rhinocéros. Tout en sachant que les 12 hippopotames actuellement en France sont totalement illégaux, quand même. Ça fait des années. Alors, il y a le prétexte pour lesquels ils sont gardés, c'est qu'effectivement, il y a eu un changement de législation. Et ils disent il faut laisser le temps aux gens du cirque de s'adapter, etc. Donc, leur laissant quelques années encore pour pouvoir s'adapter et puis se mettre aux normes. Voilà. C'est un petit peu une sorte de laxisme, alors qu'en fait, c'est en totale illégalité. Il y a eu des procès, donc j'étais intervenu notamment à Nevers pour le cirque Alain Zavatta, pour sortir un éléphant Tembo, qui est un éléphant d'Afrique mâle, et un hippopotame. L'hippopotame a été... le tribunal a dit qu'il faut retirer l'hippopotame. Finalement, il y a eu appel. Ils ont dit oui, celui-là, ce cirque est dans l'illégalité, il a totalement tort. Mais en même temps, c'est pas le seul, effectivement. Donc, on pourrait condamner quelqu'un qui a volé quelque chose, hein, qui a violé quelqu'un, mais en même temps, c'est pas le seul. Pourquoi le condamner lui et pas quelqu'un d'autre? C'est un peu le principe du tribunal qui a vu ça. Bon. Donc, pour l'instant, c'est une sorte de laxisme général. Parce qu'effectivement, si on condamne, on fait une jurisprudence quelque part, ben, on ferme tous les cirques du jour au lendemain, parce qu'ils sont tous dans l'illégalité. Et là, je pense poser à la rentrée une plainte sur Pinder, notamment. je suis en train de préparer parce qu'il faut, ils sont un petit peu procéduriers, parce qu'ils ont 80 tigres et lions et il y a là à peu près seulement 16 qui participent au spectacle, ce qui veut dire qu'il y en a 65 qui les voient. Puisqu'en France, les ménageries d'animaux qui ne participent pas au spectacle sont interdites. Donc voilà, il faut se plaindre là-dessus, pour dire qu'il y a 65 félins qui n'ont rien à faire là-dedans. Mais bon, je ne me fais pas trop d'illusions. Donc l'avantage de ce genre de plainte, c'est d'essayer de médiatiser, non pour médiatiser en tant que tel, mais c'est pour essayer de faire passer un message et de faire une sorte de pression. Mais...
Tu fais ça tout seul maintenant,
ben, j'ai créé une association pour ça, pour pouvoir essayer de... Mais qui n'attend pas d'avoir d'adhérents, donc c'est uniquement pour avoir le côté de poser des plaintes.
Comment ça s'appelle ?
Zizomys.
Comment ?
Zizomys. Le dernier mot du dictionnaire, c'est une petite souris australienne qui est en voie de disparition. ZYZOMYS.
Il y a un site internet.
Oui, il y a un petit site internet, ouais.
Il n'y
a pas de style. Par contre, ce que je vous mets, c'est le mail, ceux qui ont des photos numériques de cire.
Ouais, mets ton numéro de téléphone.
Parce qu'en fait, le gros avantage, c'est que par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est que la force des gens du cirque actuellement, c'est en fait de ne pas savoir qui ils sont. C'est-à-dire que les cirques vont changer de nom en permanence. Et ce que je suis en train de mettre en place, si d'autres personnes ont envie de m'aider en envoyant des photos et tout, c'est de faire en fait une base de données. Que j'avais fait pour One Voice, mais je crois qu'ils veulent la garder pour eux, donc on va la mettre sur internet, comme ça tout le monde l'aura. Je pense qu'il faut partager justement et que Bardot, que les autres associations s'en servent. Je veux dire, on a des choses, c'est pas pour les garder dans des placards, et en fait, il faut au contraire que ça serve. C'est-à-dire de mettre tous les noms des gens du cirque, le nom des responsables, tous les animaux présents, et tous les noms du cirque et des noms d'enseignes qui vont changer. C'est-à-dire en fait une plateforme transparente. Comme sur Zizomys, dans les prochains temps, là, je vais mettre tous les noms des montreurs d'ours en France. Parce qu'on parle souvent, vous savez, il y a des petites actions à droite, à gauche sur les montreurs. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les noms des montreurs d'ours, quels ours ils ont, etc., que tout le monde le sache, je ne veux pas qu'on le cacherait. Donc, si vous avez des photos, autant de montreurs d'ours que de cirques, etc., numériques, si vous pouvez me les envoyer. Et on va mettre une super base de données sur le site, et, avec les photos, avec tout ce qu'il faut. Et que les autres se servent, que One Voice, Bardot, tout ça se servent de ça, qui s'en servent comme outil, quoi, les outils, c'est pour les partager, je pense. C'est pour les référencer. Et si vous arrivez à avoir les prénoms des animaux, donc Zizomys at free.fr. Et
l'adresse du site.
Ceux qui sont intéressés m'envoient un mail pour me dire qu'ils sont intéressés par la campagne cirque. Par contre, parce que je vous donnerai les informations plus tard, mais par rapport à ce qui est mis en place actuellement.
Attends, ça c'est pas le, ça c'est l'adresse mail, c'est pas le.
Non, mais le site c'est tout simplement Bon, ceux qui veulent donner des sous, c'est toujours bien, parce qu'il y en a besoin, mais bon, c'est pas trop, parce que j'ai pas envie de.
T'inquiète.
On va se retenir.
Non, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir quelques adhésions pour aider, parce que c'est le nom de domaine fait certaines petites choses. Je veux dire, c'est un coût, c'est clair. Là, j'ai acheté un petit appareil numérique simplement parce que il y a des cires qui passent, je peux même pas prendre photo parce que j'ai plus de scanner, j'ai plus rien. Voilà, donc j'ai pris l'appareil le plus bas de gamme, mais au moins pour faire des petites choses. Donc s'il y a quelques adhérents, c'est bien, mais j'ai pas envie de me faire chier à faire un journal. J'ai pas envie de devenir directeur d'association parce que ça fait gonfler l'ego et ça m'intéresse pas. Donc s'il y en a quelques-uns qui veulent donner, c'est 12 € de l'adhésion, il fallait mettre un prix. Donc je suis tout à fait d'accord, je suis preneur parce qu'il y a besoin, mais
pas trop. Bon commercial.
C'est pas trop, hein.
Est-ce que tu fais pitié alors
j'ai failli enlever ma chemise tout à l'heure.
Non, mais c'est vrai que je suis à la dèche, donc moi ça m'arrange d'avoir quelques adhérents, mais il n'y a pas de journal, il y a des mails, choses comme ça. Et par contre, pour ceux que ça intéresse, c'est qu'il y a des textes qui sont publiés sur ce site. Il y a des textes qui sont publiés sur ce site, donc il y a... C'est un site, en fait, qui est dédié à l'animal-objet. C'est une conférence qui va avoir lieu à Vézelay le 20 août sur l'animal-objet. Donc il y a une partie animal-objet de consommation, donc avec la conférence que j'ai faite sur l'animal dans l'assiette. Donc c'est une réflexion sur la... Il y a une juriste, Camille Curing, qui avait fait un texte sur la délinquance dans l'assiette, sur le foie gras, donc qui est en ligne aussi, qui était sorti... Je ne sais pas si tu le connais, ça. Oui, et donc il est en ligne, ouais. Il est en ligne donc sur le site.
C'est sur le site.
Sur le site, ouais. Donc c'était tout l'aspect juridique du foie gras, comme quoi c'est une délinquance juridique. Il y a le même texte sur la corrida aussi, sur la ligne A3, donc elle est faite, qui était sortie dans Rebond aussi en 2001. Donc il est sur ce site, puisque autrement on n'avait plus accès du tout à ce genre de texte, donc on est sur ligne. Il y a un texte que j'avais fait, que David, où tu n'étais pas content sur ce texte, sur, j'en parlerai demain, sur à choisir entre une souris et un enfant sur l'expérimentation animale.
Mais non, j'avais critiqué.
Non, mais c'est bien, c'est que pour ça. Donc je vous le donnerai demain d'ailleurs, ceux qui veulent. Donc il est sur le site, et autrement, il y a. Donc s'il y en a qui ont des réflexions qui vont dans le sens de l'animal-objet, avec l'éthique de l'association, je veux dire, c'est un truc qui est ouvert à tout le monde. C'est pas un truc de personnes qui veulent publier choses comme ça. Je veux dire, c'est ouvert à tous les gens qui ont des réflexions et qui ont des textes qui peuvent être publiés quelque part nulle part ou qui ne savent pas comment faire. Vous avez des idées, vous avez une réflexion qui va dans le sens de... Alors le sens, c'est le côté transversal. Je fais une digression, mais c'est le côté transversal. C'est-à-dire pour moi, c'est le côté, je dirais, mono des choses, c'est-à-dire le côté... respect de l'animal, mais aussi dans le lien du respect de la nature et le respect de l'homme. C'est pas le côté animaliste et les autres à vous faire foutre. Donc tous ceux qui ont des idées dans ce sens-là, c'est, le site est ouvert en fait pour toute réflexion sur l'animal de spectacle, dit de spectacle, l'animal dans les pratiques de consommation et l'animal d'expérience.
Bon, juste, si c'est pas indiscret, toi, tu travailles avec Greenpeace maintenant
enfin, Non, je suis activiste avec eux et je suis responsable de certaines choses au groupe local. Mais je fais des actions.
Ah d'accord, mais tu n'es pas salarié de.
Non, maintenant je suis passé un concours d'urgence vu que j'ai démissionné, je me suis dit qu'il faut que je fasse autre chose. Donc je suis instit.
Ah d'accord.
Comme ça, les gamins, je les.
Ah, c'est pour ça que t'as acheté
une dresse.
Non,
je ne sais pas
comment ça s'appelle.
Ah, l'enfus. C'est pour les gamins.
Oui, voilà.
Ah oui, bon, ben, tu parles justement des. On approche des choses qui n'étaient pas seulement animalistes, etc. Tu vas revenir sur la question de la poséine, qui a disparu de la même façon. Demandé par rapport aux argumentations. Il y a celle du passé avec One Voice, etc., mais peu importe, c'est celle de la manière dont tu vois les choses, et notamment en liaison avec le reste du mouvement pour les animaux, l'ensemble des pratiques qu'on met en cause plus globalement, du statut de l'animal, etc. Comment est-ce que tu vois les choses maintenant par rapport à ce que tu vas pouvoir faire en tant que vétérinaire? Est-ce que tu as une volonté de rapprocher la lutte pour les animaux dans les cirques des choses plus générales en termes d'argumentaire? Je ne sais pas, ça peut être sur l'aspect de spécies, sur la sensibilité des animaux ou autre, ou pas, ou comment tu vois les choses, si c'est pas efficace.
Le spécisme, ce que je veux, c'est à travers ce sera un autre, enfin je t'en ai parlé, c'est à travers un autre projet que ça. C'est pour ça que ceux qui sont intéressés m'envoient un mail, et puis là vous direz le moment venu. Mais ce serait plus sur l'aspect que cibler sur le siècle déjà, parce que si les gens ne sont pas d'accord avec le côté expérimentation animale, je ne vais pas mélanger tout, et pour essayer d'avoir un maximum de gens qui se concentrent sur cette campagne, que ce soit uniquement leur volonté de faire ça par rapport à ce sujet.
Pardon, parce que c'est pas ma question, c'est pas dire la lutte contre les siècles et l'expérimentation animale en même temps, c'est dire en termes d'argumentaire pour la remise en cause.
Ça sera lié par rapport à la colonisation et l'esclavage en général. Parce que pour moi, le parallèle est. Je trouve que c'est la campagne qui, en tout cas à ce niveau-là, est le plus. Ben, comme je vous expliquais à l'origine, ça je veux bien le mettre en avant, l'origine c'est le colonialisme et vraiment arriver à mettre les champs. Et ça dérange énormément les gens du cirque, ça. Parce que j'aime bien les parler avec eux et leur dire ce que je pense, d'ailleurs, parce que c'est quand même des gens qu'on arrive à parler avec, même s'ils ont une batte de baseball, on est dans le cachet derrière. Mais on arrive quand même à parler quand on les respecte aussi. C'est vraiment le côté colonisation, le côté esclavage, le côté. Et ça, je pense que c'est. Je vois que c'est quelque chose qui touche les gens aussi. Et donc c'est cet aspect-là surtout, et l'aspect vraiment de côte à côte, l'éléphant dans la nature, l'éléphant en captivité. Et expliquer, je pense que ça portera aussi après pour d'autres campagnes, c'est pour ça que les gens l'utilisent et le prendront ce qu'ils veulent, c'est le côté montrer que les besoins physiologiques de l'animal ne sont pas respectés en captivité. Donc après ça peut être valable pour un porc, ça peut être valable pour n'importe quel animal en zoo, ou tout ce qu'on appelle les NAC, etc. Et donc les deux aspects, c'est ça, c'est colonisation-esclavage et le côté éthologie. Donc je travaille notamment avec Alain Boyaval, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gars qui travaille sur les ours, donc il m'a fait un petit truc sur les ours, l'éthologie de l'ours. Et donc pareil, l'éthologie de l'ours, il m'a fait l'éthologie dans la nature, et puis en captivité. Voilà. Et donc le but sur ce site aussi, ce sera de mettre tous les parallèles entre tous les animaux. C'est-à-dire au-delà du côté... Voilà, il y a l'esclavage, montrer une réalité, mais c'est aussi expliquer pourquoi, pour ceux qui veulent aller plus loin. Mm-hmm. Montrer qu'il y a un fondement, quoi. Parce que les gens, souvent, il y a ce manque de fondement. Et en gros, voilà, est-ce que vous êtes esclavagiste ou est-ce que vous êtes abolitionniste, à vous de choisir. Mais assumez simplement, les gens ont le droit d'être esclavagistes, mais dans ce cas, il faut qu'ils le sachent, que c'est la définition de l'esclavage.
Oui, dans ce contexte, est-ce que tu fais le rapport avec la viande, par exemple?
Moi, personnellement, oui, dans le projet, non. Parce que je pense qu'il faut avoir. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à suivre pour le cirque, ils ne sont pas prêts à suivre pour la viande. Donc je pense qu'il faut. Mais personnellement, oui, évidemment. Je me suis posé la question. C'est pour ça au début, je voulais mettre sous isomie, ce qui est plus général et tout. Mais je pense qu'il faut arriver à cibler sur une campagne pour que Il y a des gens qui suivront pour la viande qui ne suivront pas pour les cirques, par exemple. Donc je pense qu'il faut mieux cibler pour une question d'efficacité. On ne peut pas se permettre de vouloir. Enfin, à mon avis, c'est personnel. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de vouloir être trop large, parler antispécisme à tout le monde, alors que les gens ne sont pas prêts à l'entendre. Parce qu'on a besoin aussi d'efficacité, ça j'en parlerai par rapport à l'expérimentation animale demain, où ça va sûrement être très polémique. Mais je pense que le côté théorique, il y a un moment, il faut. C'est très bien la philosophie, le côté. Il faut parler d'antispécisme, il faut parler de plein de choses, mais il y a un vrai problème pragmatique qui devrait être pris en compte aussi. Quoi. Et à mon avis, le problème pragmatique est. Si le choix du site est vraiment sans lien possible avec ça d'ailleurs, ça va être vraiment le côté que les gens, ça les intéresse le cirque ou ça les intéresse pas, mais c'est que ça.
La question des argumentaires pour le cirque, c'est pas. Vous avez. Pour moi, en termes de philosophie, pour moi, c'est pas nécessairement le terme approprié. C'est, enfin, si on met en cause l'utilisation des animaux dans les cirques, nécessairement, on le fait sur une certaine base. D'arguments,
ouais.
C'est ça dont il s'agit pour moi, c'est l'argumentaire, parce qu'on se fonde pour dire que c'est pas légitime de maintenir dans cet état d'impersonner ces traitements. Donc, et il se trouve qu'il y a tout un tas de raisons pour les animaux de cirque pour lesquels c'est pas légitime, qui sont exactement les mêmes que celles pour lesquelles c'est pas légitime de garder une poule dans une cage, quoi. De la manière que c'est pas légitime de garder une lion dans la cage pour des raisons extrêmement similaires. Que ça ne répond pas à ses besoins, et que du coup, pour moi, le lien qui peut être fait entre les différentes batailles menées sur des domaines assez particuliers peut être fait aussi à ce niveau-là. Et que, suivant, si on a cet objectif-là, quand on conçoit la campagne ou pas, ça va ou pas transparaître,
tout à fait.
Ça va passer ou pas.
Il y a un côté qui va transparaître. De toute façon, je te dirais franchement, le projet qui est mis en place, c'est un projet, le cirque, c'est phase numéro 1. Donc, de toute façon, le truc est prévu pour qu'il y ait une phase numéro 2 qui aille vers autre chose. Et le logo lui-même est prévu pour qu'il puisse évoluer, de toute façon, parce qu'il y a un logo qui est mis en place. Il évolue exprès, le nom du site est fait exprès pour évoluer, de toute façon, ensuite. Mais la phase 2 ne passera qu'une fois que la phase 1 sera passée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire les phases en doublon, mais une fois que le résultat... Voilà. Mais fatalement, ça va transparaître, je ne sais pas exactement. Et si vous avez des idées, je veux dire, au contraire, il faut les ramener. Après, c'est un truc qui doit être.
J'en parle, dans plus conseil par rapport à la campagne sur le foie gras, c'est quelque chose qu'on a en gros pas fait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est ce que je pense que la manière dont tu abordes le problème du cirque, c'est de ne pas utiliser des arguments dangereux. Il y a des arguments, par exemple, spécistes ou des arguments. Qui serait utile que à cette cause-là, mais néfaste pour d'autres aspects du mouvement, pour d'autres mises en cause de pratiques. On le fait pas, on dit pas, je prends l'exemple du foie gras, mais dans le cirque, on dit pas un jeu. Parfois, on va pas dire, faut pas manger de foie gras parce que c'est pas bon à manger, le goût est pas bon, on n'en mangeait pas, quoi. On parle des animaux. C'est mauvais pour la santé, etc. On imagine que pour le cirque, il peut y avoir des arguments aussi dangereux à utiliser, du style, tu parlais des chevaux, des problèmes des chevaux, par exemple, de dire, bon, les animaux sauvages, c'est grave dans les cirques, par contre, utilisons des animaux domestiques.
Non, je suis pour lever le problème en disant, c'est un problème lié aux arcastres, par exemple, mais je ne suis pas pour détourner les problèmes.
Voilà, moi je vais dire ça parce que tu as présenté.
Il ne faut pas que ce soit une trahison par rapport à l'antispécisme, voire ça peut être abordé l'antispécisme d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas une fin en soi.
Ce que je veux dire, pour conclure, c'est que justement, je parle d'autant mieux que moi je considère qu'on ne l'a pas bien fait, pas encore fait, côté foie gras, c'est qu'on n'utilise pas d'arguments qui soient dangereux, d'arguments par exemple spécistes ou autres, mais par contre,
la liaison entre cette campagne, comment elle s'insère dans un cadre plus général, de la mise en cause de la viande d'une part et de la mise en cause de l'exploitation des animaux en général, ça on n'a pas fait, pas encore, c'est quelque chose qui reste à faire, et si on ne l'a pas fait, c'est parce que c'est difficile à faire. Et c'est difficile, mais plus que simplement dire, oh si on fait ça, les gens vont se détourner de cette cause-là parce que ça remet en cause trop de choses à la fois, donc bon, ils ont qu'un seul truc. Je pense que c'est un peu simpliste de dire ça. Je pense qu'il y a d'autres raisons, et c'est quelque chose auquel moi je suis assez attaché à consacrer sur cette campagne-là. Ça rejoint exactement ce que Yves va nous présenter ce soir à 21h30, ici, le tract de remise en cause de l'exploitation animale sur une pratique précise mise dans le contexte général de la mise en cause de l'exploitation animale, on trouvera ça de manière précise. Je pense que c'est un peu un enjeu vraiment important dans le mouvement aujourd'hui, c'est qu'on voit que les associations ne le font pas, pour des raisons qu'on a en partie expliquées tout à l'heure, quelles qu'elles soient, les anciennes, les plus récentes, enfin, elles ne le font pas. Et que du coup, si ça peut être fait quelque part, c'est au niveau des initiatives plus de particuliers, comme tu dis, de militants, comme celles que tu as décrites, qui eux peuvent le faire finalement. Quoi. J'ai l'impression, moi je pense que PITA le fait. PITA, une des rares assauts qui le fait, c'est PITA. Quoi. Donc, mais il y a moyen de le faire sans être PITA, aussi en France. C'est que ces diverses initiatives individuelles de remise en cause de pratiques précises, la corrida, le foie gras, les tests, les tests cosmétiques, c'est pas les tests en général, le cirque, etc., peuvent avoir une approche. Qui sans être une méga association, c'est-à-dire que ces initiatives, chacune avec leur particularité, leur organisation spécifique, etc., peuvent avoir quand même des points communs de remise en cause plus générale de l'exploitation animale, pour qu'on puisse aller faire le lien entre les différentes choses qu'on fait chacun, mais pas juste le lien entre nous, mais le lien que, du point de vue de l'opinion publique, ce soit perçu comme des expressions d'un même mouvement de remise en cause de la manière dont les animaux sont traités aujourd'hui. Et je pense. Quand au niveau de la corrida, il y a eu des auditions faites à l'Assemblée nationale il y a quelques mois par diverses associations ont été reçues. Il y a une des députées qui s'appelle Geneviève Perrin-Gaillard, une députée socialiste qui est responsable du groupe des députés qui s'occupe des questions animales au Parlement, qui est très bon à niveau, et qui, elle, ne croit pas à la possibilité d'abolir la corrida tant que le lien, tant qu'une remise en cause plus générale du statut d'animal n'est pas faite dans la société, mais aussi dans le cadre de ces luttes-là. C'est ce qu'elle disait explicitement aux associations et à la députée qui propose la loi de l'abolition. Et je pense qu'on a une opportunité de pouvoir le faire entre campagnes. Celle que j'ai décrite, en dehors des assos, même s'il faut aussi les associer, mais je pense que moi c'est assez résistant à ça, mais on a la possibilité de faire ça avec des gens qui sont avec ça, voilà, qui participent à cette campagne-là de manière très simple, sans créer des grosses structures compliquées. Et ça peut avoir un effet très très important sur le mouvement, y compris d'ailleurs sur les associations de la manière que
tu. Donc tu proposais notamment de faire des liens entre ce genre de diverses initiatives.
Mais je pense qu'il y a des moyens de faire des liens qui sont créés des fédérations. Voilà. Ça peut être autour d'un slogan ou autour de choses un petit peu plus poussées. Mais je pense que les cas concrets, je pense que c'est la notion que les animaux sont des êtres sensibles. Il y a des choses à faire autour de l'esclavage aussi, mais aussi contre le spécisme. Je pense qu'il y a des choses à faire.
Là, par rapport au projet, le slogan qui sort tout le temps, c'est pour les bannières, toutes les bannières sont faites pareil, c'est pour l'abolition de l'esclavage animal.
Mm-hmm. Moi, il me semble que à partir du moment où où tu utilises des arguments de mon point de vue, c'est-à-dire juste qui parlent des animaux qui sont les premiers concernés par ces choses-là et qui n'utilisent pas, par exemple, le fait que c'est des animaux qui peuvent être en voie de disparition, des choses comme ça. Mais quand tu utilises les arguments justes, c'est pas tellement que la question n'est pas tellement est-ce que toi tu vas parler de la viande ou pas. La question c'est que immédiatement les autres ils te parlent de la viande. C'est-à-dire ce qui s'est passé par rapport au foie gras, c'est pas que la campagne foie gras a démarré en disant nous parlons du foie gras, mais en fait on pourrait parler de tous les autres animaux d'élevage. C'est que immédiatement les éleveurs en face ils ont dit ah mais si on abolit le foie gras, il faudrait être végétarien, etc. Alors moi j'ai le sentiment que la question elle est plutôt que toi à partir du moment où tu as l'intention d'utiliser les arguments justes, par exemple le truc à l'abolition de tout esclavage animal, moi ça me paraît vraiment top comme slogan quoi, mais que forcément en face les gens ils vont dire ah mais vous êtes contre les vaches des poulets alors.
C'est pour ça que, oui.
Il faut que toi tu sois prêt en face à savoir ce que tu vas répondre. C'est un peu ça, à Stop Gavage, le problème qu'on s'est posé. Qu'est-ce qu'on va répondre? Comment répondre de façon correcte à cette question-là?
Tout à fait.
En l'éludant, en essayant d'en parler, en disant oui, nous sommes végétariens à titre un peu personnel, ou en essayant d'ouvrir un peu. Enfin bon, c'est pas du tout évident comment répondre à ça sans immédiatement être classé parmi les fous ou quelque chose comme ça. Enfin, sans que ça disqualifie la lutte précise sur laquelle on mène. Parce que ce qu'on cherche, c'est quand même d'utiliser cette lutte comme un coin pour faire bouger un peu l'ensemble. Mais si immédiatement ils disent « Ah, mais vous êtes l'éléphant qui essaye de rentrer par un trou de souris », je veux dire, enfin, je sais pas si l'image est... c'est la cause du compte et tout ça, quoi.
Voilà. Donc, sur le... Donc, on met des sujets sur le foie gras, travaux de David, on a trouvé un moyen, à travers un texte qu'on mettra sur le site à la rentrée, de faire le lien plus général de la mise en cause du spécisme, de la viande et les notions de sensibilité des animaux. Mais ça reste, on a été capable de le faire là, c'est dans le cadre d'un texte qui est long, qui met ça en perspective, qui. On n'est pas encore au niveau d'être capable de le faire.
On a slogan.
Dans un slogan, dans un tract, sur une page web, c'est ça. C'est comme une intéressant de voir ce soir à 21h30, c'est ça. Et on ne présente pas sur rien.
Mais je vois par exemple par rapport à l'abolition de l'esclavage, c'est vrai que c'est le. Faut faire attention aussi avec ce genre de slogan, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit. Même si on peut voir l'esclavage d'une certaine forme sur toute l'exploitation animale, je pense qu'il est. Il est plus lié aussi à certaines formes d'exploitation, au niveau de la définition même. Je pense qu'il est vraiment quelque chose qui est vraiment très proche des animaux du siècle, c'est vraiment le lien à l'esclavage le plus proche, notamment avec les chaînes et plein de choses, qui est peut-être moins proche, quelque part, que les animaux d'élevage. Même si on peut trouver évidemment des liens à ça. Mais je pense que du coup, ce genre de slogan, s'il faut leur donner des forces, il faut aussi que chaque. Quelque part, une entente entre nous, c'est-à-dire qu'il soit vraiment ciblé sur certaines choses pour pas donner un nom finalement qui va être utilisé un petit peu à tort et à travers un peu partout. Tu vois. À mon avis, hein, c'est le. Et en plus, il y a le crédit quelque part dit Grégory, donc qui était auprès de Martin Luther King, qui disait quand il voyait justement les animaux dans les cirques, il voyait ses frères esclaves ou quelque chose comme ça, qui disait c'est le. Après, ben, tu en parleras demain de tout l'esclavage animal humain, tu connais mieux le sujet que moi. Mais je pense que le but n'est pas le même non plus par rapport à cet esclavage. Il faut voir pourquoi c'est comme le seul lien, mais ça c'est tout un débat, le lien entre l'esclavage ou l'exploitation juive et l'exploitation animale. Il faut voir aussi que le but final n'est pas toujours le même.
Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord et que les initiatives qu'on évoque là ne sont pas nécessairement et n'ont pas le but et aucune ne sera appropriée pour représenter l'ensemble du mouvement animaliste si tant est que c'est quelque chose de clair dans sa définition, mais plutôt que. Ça peut quand même si par exemple la notion d'esclavage ou la notion de mettre en avant la sensibilité ou la notion du refus du spécisme, on peut faire rentrer qu'une partie de ce que de différentes luttes qu'on mène, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin, je pense, de trouver justement soit la doctrine, on en parlait un petit peu hier dans le cadre de la discussion de manifeste du type droit des animaux un peu. Hier, il n'y a pas nécessairement besoin, enfin, c'est mon sentiment, qu'il y ait une doctrine à exprimer ou un slogan en général qui regroupe l'ensemble de tout. Par contre, on peut quand même faire mieux que d'avoir des luttes séparées, des arguments qui parfois même sont négatifs
tout à fait,
pour l'autre. Quoi. Entre les deux, il y a des choses à faire.
Mais je pense que ça donne une force, effectivement, d'avoir une spécificité pour chaque campagne, enfin, en tout cas, par rapport. Et moi, quand j'étais à One Voice, je voyais qu'il y a des gens qui m'appelaient, qui voulaient pas, qui étaient d'accord pour les siècles, mais qui ne voulaient pas, parce que One Voice, c'était anti-expérimentation animale. Je sais que c'est un vrai problème.
Ouais.
Donc moi, je ne suis pas du tout pour l'utilisation d'arguments qui sont contraires à l'antispécisme, parce que j'ai cette conviction, effectivement, antispéciste globalement. Donc, ça, c'est clair qu'il ne faut pas parler de... Oui, on peut exploiter les animaux domestiques, etc., et il faut avoir une entente entre nous par rapport à ça, mais après ça m'empêche d'avoir une lumière particulière à chacun, je pense que c'est important. Mais de toute façon, je ne me fais pas ce genre de truc, tous les initiatives qu'on peut lancer, je ne me fais pas d'illusions, ça sera repris au détriment des animaux par aussi des grandes associations qui vont reprendre les slogans plus ou moins déformés pour en faire. Et pour le généraliser finalement, d'où l'intérêt d'arriver à rebondir aussi. Quoi. Ça, c'est. Je peux plus trop
dire.
Ben, ça dépend, parce que si c'est mal utilisé ou repris d'une façon un peu dévoyée, je pense que ça peut être négatif.
Mais...
Par exemple, si on met l'esclavage à toutes les sauces, c'est un peu n'importe comment et n'importe où, je veux dire, la notion d'esclavage, c'est une notion... J'ai longtemps hésité avant de faire ça, parce que c'est une notion, enfin toi tu sais mieux que moi, mais c'est une notion quand même très particulière aussi, et qui est à mon avis plus liée justement par rapport à certains aspects. Si on la met à toutes les sauces, je veux dire, bah, ça n'a plus de goût après, ça n'a plus d'impact ou quoi que ce soit, et ouais, tout le monde va faire la même chose. Et le but, c'est quand même l'efficacité d'arriver à un point... Et je trouve que vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est votre initiative sur le foie gras. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a une spécificité, une portée. Et il ne faut pas que tout le monde veuille faire systématiquement le manifeste pour...
Et pourquoi pas refaire la même chose, dans ce même concept, là, du stockage sur un autre sujet. Je ne sais pas, là, c'était les oies, mais...
Après, le concept de la pétition, je veux dire, c'est...
Il y a des initiatives, enfin, le cirque, peut-être qu'on parle français, ça va être un peu de l'approche, sur la fourrure, il y a aussi des initiatives qui existent.
Mais c'est la forme aussi, tu vois, c'est, après, là, ce serait plutôt une marche aussi, une marche comme la marche de Washington pour les droits civils, c'est droits civils, c'est ça. Là, c'est pareil, c'est une sorte de marche, là, c'était plutôt une initiative citoyenne, après, c'est au niveau des mots, de la forme, mais c'est vachement important, on est dans une société de communication, et si on a tous la même forme, et que je lance une initiative citoyenne sur les cirques, bah, finalement, on va avoir des initiatives citoyennes sur tout, et ça va retirer quelque part, enfin, je pense, hein, ça va retirer aussi du poids par rapport à cette initiative citoyenne, et par rapport, si on fait tous pareil, je veux dire, c'est pas... J'y ai pensé, j'avais appelé Joris par rapport à ça, et je... Voilà, après, le mode de la pétition, malheureusement, c'est quelque chose qui... À savoir quand même, j'ai oublié de le dire, mais c'est que la pétition cirque, c'est la pétition la plus importante de la mandature européenne 2001-2002, au niveau européen. Donc, qui a été enregistrée à
l'élection des
animaux sauvages dans les cirques. Ouais.
Alors, attends, de la mandature européenne
tout, au niveau européen, là, de tout 2001-2002, c'est la pétition la plus importante.
Mais une pétition initiée par qui ?
Par moi, à l'époque, qui a été déposée, en fait, au Parlement de Luxembourg.
C'était à l'époque où tu étais chez moi,
ouais.
D'accord. Et c'est celle qui a rapporté.
Donc elle a été enregistrée à 54 000 signatures, on est arrivé à plus de 100 000. Ouais. Mais disons que c'est quand même c'est la plus importante de.
Moi je trouve ça.
C'est quand même bon à savoir, quoi. Ça montre qu'il y a quand même un vrai mouvement qui existe. Et que...
Il y avait un truc tout à l'heure, Antoine il a parlé d'armement dangereux par rapport au spécisme. Je pense qu'il veut dire qu'il va renforcer. Enfin, dangereux, c'est peut-être pas le mot que j'utiliserais, enfin bon, peu importe, mais qui va renforcer à un moment donné le spécisme.
Ouais.
L'idée, c'était enfin, par exemple que c'est mauvais pour la santé, quelque part, ça veut dire que leurs intérêts, finalement, ils comptent pas grand-chose, quoi. Et,
c'est pour ça que les accidents, j'en parle, mais j'en parle pour illustrer que les animaux deviennent fous, etc. Donc je peux dire qu'il y a des accidents, mais c'est pas le but à intérioriser ici, parce que c'est dangereux si vous y allez. Hein.
Et dans ce que tu as raconté, je trouve que justement, il y a une argumentation qui est vraiment, vraiment intéressante et vraiment bien, c'est-à-dire de voir quels sont les besoins, comment se comporte un éléphant, quels sont ses besoins, et montrer à quel point dans le cirque, la claustration, etc., vont à l'encontre de choses que aimerait faire un éléphant, quoi. Et au départ, tu as dit, je préfère qu'on parle d'animaux de cirque. Tu vois, de la même façon qu'animaux de cirque, ça va renforcer, ou ça va être dangereux, ça va renforcer l'image qu'on se fait des animaux, en général, de catégoriser les animaux domestiques, les animaux de cirque, etc., alors que c'est des animaux dans des cirques. Quoi. Donc ça enlève le côté essentialiste. Des animaux, de ce type d'animaux-là, quoi. C'est-à-dire que les gens vont finir par dire sûrement, ouais, mais ils sont faits pour ça, ou voilà, c'est...
C'est vrai que c'est une première réflexion.
Quand on pense, j'imagine que si on demande à des gens de faire un champ lexical, là, de mettre éléphant, et de mettre les mots que ça leur évoque, ils vont sûrement mettre cirque assez rapidement, quoi. Mm-hmm. Mais ils vont mettre un autre mot, ils vont mettre sauvage aussi. Et c'est un peu ça qui me dérange, parce qu'il me semble que dans ton argumentation, il y a tout ce qu'il faut pour montrer à quel point les animaux vont être mal dans un cirque, quoi, qu'on va être frustrés, etc. Peut-être que d'insister sur le caractère sauvage, naturel des animaux, c'est aussi quelque chose qui va renforcer cette catégorisation des animaux, quoi. Moi, je trouve que ça suffit de dire qu'ils sont enfermés, et que habituellement ils se déplacent plutôt, c'est des animaux qui sont capables de, enfin qui ont besoin d'espace, quoi.
Je crois pas pourquoi ça te dérange le côté.
Ce qui me dérange, c'est de renforcer le fait que les éléphants soient des animaux sauvages.
Pourquoi?
Parce que je pense que ce qui est dans l'argumentation, ce qui peut être intéressant, c'est qu'ils soient frustrés de quelque chose, et pas tellement qu'on les remette dans une catégorie qui est animaux sauvages. Parce que j'ai l'impression qu'un animal dans un parc, qu'un éléphant pourrait être heureux sans forcément se servir de ses défenses, par exemple. Ou sans que tout le spectre de son ouïe soit sollicité, quoi, tu vois. Parce que le fait qu'il ait des oreilles, ou le fait qu'il ait des défenses, par exemple, habituellement il s'en sert pour déraciner des arbres, ou aller chercher des racines, ou choses comme ça, le fait qu'il ne fouille pas la terre pour aller chercher des racines, le fait qu'il ne s'en serve pas pour ça, à mon avis, moi j'ai l'impression que c'est pas ça en soi qui est une source de.
Oui, non, là c'était pour l'histoire, le côté image, le côté oui, symbole.
Parce que mon chien, je veux dire, il se trouve sur un matelas ou sur un canapé, je veux dire, il va préférer, il va se trouver super bien là. Et que finalement, j'ai l'impression qu'au bout du compte, ça soit. Enfin, le fait de dire que. Ça soit. Parce qu'il n'a pas le comportement qu'on retrouve dans la nature, c'est ça qui est le source de son mal-être. Plutôt que c'est parce que ça entraîne une frustration que son environnement global est pauvre, plutôt. Parce que qu'un éléphant fasse autre chose que ce que font ses congénères, peut-être à un moment donné, ça peut être très très.
Bah, le problème de l'environnement pauvre, c'est que ça arrive à l'enrichissement du milieu. C'est exactement, c'est le discours justement de tous les zoologues, et c'est un peu le résultat qu'ils ont eu en Belgique avec leur norme d'enrichissement pour les animaux dans les cirques.
Oui, mais on peut critiquer ça, on peut critiquer le fait que ça soit pas assez, que ce soit une poudre aux yeux, ou des choses comme ça. Parce que j'imagine que les gens, quand il va y avoir un débat avec les gens du cirque, les gens du cirque, ils disent pas qu'ils en ont rien à foutre des animaux, au contraire, ils vont trouver
tout ce qu'ils aiment aux animaux.
Oui, et puis même, ils vont te dire que je pense qu'ils vont utiliser les arguments pour montrer que un animal dans la nature, il va avoir plein d'expériences qu'il va vivre dans sa vie qui vont être très néfastes pour lui, quoi, qui vont fuir, etc. Et que du coup, dans le cirque, il se retrouve dans un environnement protégé et que blablabla, blablabla, quoi. Parce qu'avec des arguments avec lesquels je vais pouvoir, moi, avoir une adhésion, quoi. Ben, je trouve que peut-être à un moment donné, ça peut être dangereux ou renforcer l'essentialisme de l'animal sauvage, quoi. De retomber dans une catégorie, c'est-à-dire que la place de l'animal, c'est pas dans un cirque. La place d'un animal, c'est dans la nature, quoi. Avec tout ce que moi j'aime pas de l'utilisation du mot nature et ça redonne sur un essentialisme de l'animal, dans l'argumentation, quoi, qui peut renforcer quelque chose.
Là, c'est vrai que c'est un truc sur lequel je bloque.
Je pense que c'est un truc sur lequel
on est. Sur le naturalisme, je suis contraire. Je suis pas là-dessus.
Je suis pas très clair.
La scission avec, pas totalement, je pense, mais la scission avec les animaux domestiques, c'était une façon d'aborder la question, c'est-à-dire. Est-ce que finalement ça aiderait pas, y compris les animaux dits sauvages dans les cirques, que parlent aussi des animaux domestiques qui sont maltraités, quoi. Je veux dire, est-ce qu'après tout ça aiderait pas avoir ces animaux sauvages et domestiques, mais donc les sauvages aussi, comme des individus dont les besoins sont frustrés, qui sont pas bien, enfin, tel que tu l'as très bien décrit tout à l'heure, et que ça renforcerait encore ça, que tu te rends compte que aussi, je sais pas quels animaux il y a dans le domestique, j'ai pas bien saisi, il y a des oies, c'est ça,
des chevaux, chiens, chats, des cochons, des
âmes. Si on pense qu'ils sont mâles, quoi, et qu'il y a des moyens, si on pense qu'ils sont mâles, c'est qu'il y a des moyens d'expliquer qu'ils sont mâles, et donc il n'y a pas de raison que quelqu'un ne comprenne pas, et qu'à ce moment-là, on se met à voir tous ces animaux-là comme des individus qui sont mâles, quoi. Et que donc, il faut faire quelque chose pour eux.
Le problème, c'est la réponse qu'on donne.
Et que soit leur espèce à ce moment-là.
Oui, mais la réponse,
c'est qu'on va. Tu parlais que les animaux domestiques, tu semblais les laisser de côté pour le moment, pour diverses raisons, enfin, t'as un petit peu expliqué. Et je n'arrive pas bien à comprendre si c'est parce qu'ils sont. Tu n'es pas sûr qu'ils soient aussi mal que les autres. Ou si c'est parce que tu penses que ça va être moins bien compris, quoi.
Je
suis pas sûr que ça soit moins bien compris, parce que quand on parle d'une poule dans une cage, il y a 90% des Français qui pensent que c'est dégueulasse qu'on leur fait de la mettre dans une cage, et pour toi c'est une poule, si vous êtes con, c'est pas très sympathique à regarder, enfin, voilà. Et ils avaient mal dit de ferme, quoi. Donc, et pourtant il y a peut-être plus aujourd'hui de soutien pour l'interdiction des cages de batterie en France dans la population que des éléphants dans les cirques, ça se trouve. Et tu dis que les éléphants dans les cirques sont. Moins bien traité que le langage, ça se trouve, ça aiderait ton argumentaire, peut-être. Je ne sais pas, mais je suis pas sûr que toutes les idées un peu préconçues, je dirais, quelque part, justement, des assos classiques, que c'est plus dur s'occuper des animaux de ferme que d'animaux sauvages, etc., ben, je ne suis pas sûr que ce soit si évident.
Non, ce n'est pas évident du tout.
Voilà.
Mais je rejette pas les animaux domestiques, je sais pas comment ça va évoluer. Et c'est ouais. Je pense que les chevaux, c'est plus lié au problème de l'art équestre en général. Ouais. Et qu'il faudrait plutôt avoir une campagne sur l'art équestre, qui est un vrai problème. Je connais bien Saumur notamment. Et c'est plus lié à ça, c'est surtout. Limite, il y a aussi toutes les ménageries itinérantes, j'en ai pas parlé, mais ça rentrera plus dans le côté. La problématique justement des cirques en général. C'est pour simplement, c'est qu'il y a. Les sujets se retrouvent tous, donc là, tout ce que je décrivais, ça. Je sais pas si les chiens, les chats, ça se retrouve plus par rapport au problème aussi de l'animal dans nos milieux, l'animal domestique dans les villes, etc. C'est plus une problématique qui est. C'est une façon d'aborder la problématique. Après, c'est pas pour ça qu'il faut l'exclure, c'est pas pour ça qu'il faut pas en parler, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est la solution. En disant que par rapport à ce que tu dis sur le côté naturel, quelle est la solution qu'on propose? Est-ce que c'est effectivement des normes de bien-être? Moi, ça me paraît toujours dangereux. J'ai un peu le slogan, moi, toujours qu'on leur foute la paix, c'est tout. Moi, je suis un peu marqué par Théodore Monod, le côté respect de la vie. Donc, on défend une espèce en défendant son espace. Donc, c'est vrai que des éléphants, c'est les arguments de Pinder, Sébastien, t'as raison. À chaque fois où ils nous disent, effectivement, ils sont mieux ici que dans la nature. Ce qui, d'ailleurs, qu'on peut entendre, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on leur propose en zoo, en parc zoologique? On voit les mêmes troubles de comportement. De toute façon, les animaux n'arrivent pas à trouver leur équilibre. Même à Thoiry, c'est ça qui est hallucinant, quoi. Donc. Moi, c'est vrai que c'est plus l'argument de respect de la vie, et c'est vrai que ça n'a pas dans le sens du côté. Moi, je vais plutôt dans le sens, le côté naturaliste des choses. C'est pour ça que je voudrais lire ce que tu as écrit là-dessus, parce que j'ai. Pour ça, je me demandais, je ne sais pas si je suis antispéciste, si je dois accepter cette idée par rapport à la prédation et le naturalisme, j'ai un blocage encore.
Pourquoi spéciste? Faire autre chose.
Hein. D'accord.
Antispéciste, c'est être contre le spéciste.
Voilà, donc
je. C'est contre l'idée que les intérêts des animaux contrôlent qui les humains, juste parce que c'est.
Voilà. Bon. Je m'en fous. Oui, voilà, donc a priori, si je vais être antispéciste, je ne sais pas. Mais disons que le côté naturaliste, pour l'instant, je ne partage pas cette idée. Moi, c'est plutôt qu'on doit foutre la paix. C'est pas pour moi les mettre dans une catégorie de dire bah, qu'un éléphant ou qu'un tigre, bah, ça, les tigres ils vont être vivre en Asie, qu'on lui foute la paix dans son milieu, que le cafard on lui laisse son milieu de vie de cafard et que la souris on lui laisse son milieu de vie de souris. Voilà. Pour moi, c'est pas mettre dans une catégorie, mais j'ai peut-être tort, c'est pour ça que je vais essayer de lire un petit peu tout ce qui a été écrit là-dessus et pour remettre en cause.
Pour faire le lien avec l'esclavage, justement, si tu l'abordes sur cette question-là, la question qui peut être posée à ce moment-là, c'est bien, alors, est-ce que ça veut dire que les Noirs d'Afrique, dans les villages, on allait les chercher pour les mettre esclaves, parce que les arguments des planteurs sont plus aimés dans la plantation aux Caraïbes que dans leur village, ils pouvaient se faire massacrer par des tribus qui se prennent dans la vie, etc. On va dire, ben, est-ce qu'il fallait les laisser dans leur village? Parce qu'après tout, pourquoi aujourd'hui on va aider les Africains qui crèvent la dalle, quoi, ou qui ont d'autres problèmes, qui sont malades, etc. Pourquoi on va les aider? Je veux dire, on va les laisser dans leur milieu naturel, en Afrique, dans leur village.
Mais parce que, non, mais le parallèle est intéressant, ouais. Oui, tout à fait.
Et du coup, à partir du moment où nous-mêmes on se met à faire le parallèle entre des luttes humaines et des luttes non humaines, l'argument que les animaux sauvages il faut les laisser dans la nature, il devient quasiment intenable, hein, parce qu'à ce moment-là, c'est l'argument du Front National vis-à-vis de chacun dans son pays, et puis les problèmes des autres, on les laisse, quoi.
C'est la portée des espèces.
Et ça, on va l'avoir très très vite, quoi. Enfin, aussi travailler dans les argumentaires des lobbies opposés, le mémoire près, quelques minutes, quoi.
Le truc, là, je vois pas trop le truc que le Front National est un parti.
Mais non, mais veut dire, les autres pays, ils ont peut-être leurs problèmes,
mais non, pas du tout. Mais non, mais attends. Non, non, là, je suis pas d'accord. L'interventionnisme qu'on fait en Afrique, etc. Je veux dire, on est obligé d'intervenir. Déjà, c'est de l'assistanat. Je suis contre ce genre de truc. J'en parlais hier, d'ailleurs, avec des gens qui travaillent sur ce sujet. C'est parce qu'en fait, on est arrivé justement à ce côté impérialiste, colonialisme. S'ils sont dans la merde aujourd'hui, c'est bien parce qu'on est en train de pomper leurs ressources et tout. Je veux dire, alors après.
Il y a des maladies tropicales qui existaient avant la colonisation.
C'est un des pays
qui existe toujours.
J'écoutais une conférence de Pierre Frédier.
Il n'y a pas de traitement parce que le système économique actuel fait que ce n'est pas rentable de développer des traitements pour ces maladies alors que ce serait possible. Quoi. Et que les gens de ces pays-là n'ont pas les moyens financiers, technologiques, etc. pour les développer. Donc là, on est face à une question, c'est de dire est-ce qu'on investit, on donne de plus de notre argent de pays pour développer ces médicaments, ces traitements ou pas, quoi. Et où est-ce qu'on les laisse? Voilà. Donc là, c'est un cas très très concret de dilemme, pas très compliqué à trouver, mais qui derrière suppose qu'on s'occupe de leurs problèmes. Et qui n'est pas un problème que on, les blancs occidentaux, etc., on crée. Quoi. Donc vis-à-vis des animaux, c'est pareil, vis-à-vis des animaux dans la nature qui souffrent, qui ont des problèmes, il y a plein de gens dans le milieu animaliste qui s'occupent, qui recueillent des animaux. Qui sont blessés dans la nature, qui sont malades, qui essaient de les soigner. Enfin, y compris beaucoup d'associations écologistes, d'AFDO, etc., s'occupent aussi d'animaux qui sont malades, pas simplement à cause des marées noires, des centres, des oiseaux, etc. et que du coup c'est complètement incohérent pour moi, pour le mouvement animaliste, de dire que de ne pas se préoccuper, enfin de dire pas capable. On ne peut pas être cohérent à dire que on s'occupe, les animaux sauvages, on les remet dans la nature et qu'il n'y a pas de problème, tout va bien, alors que vous avez le droit dans les cirques, et en même temps, dire que c'est la même chose, qu'on lutte pour les libérer de l'esclavage comme on lutte pour les humains, alors que les humains, on dit qu'il faut les aider quand ils se trouvent dans la nature.
Mais c'est pas entendu.
Je ne pense pas être très clair, mais...
Si,
oui.
Si,
là, on va avoir un vrai problème d'argumentation, enfin, parce que moi, je pense qu'il faut aider les autres, y compris...
Mais j'ai pas, pas exclu qu'on aide les éléphants en Afrique au niveau local, qu'il y ait des fermes effectivement pour aider. Mais ce qu'il faut déjà, c'est leur redonner l'espace. Et ça, c'est Jean-Claude Nouette qui le dit. Je veux dire, on défend une espèce en défendant son espace. Donc après, qu'on défend.
Non,
mais c'est qu'on leur fout la paix, c'est-à-dire, oui, voilà, mais qu'on arrête de les transporter. Après, qu'on laisse en paix des Africains, puisqu'on prend cet exemple, ça veut pas dire spécialement les laisser crever de faim et de pas les assister. Je veux dire, il faut laisser les gens libres, mais après tout, aider des animaux, c'est pas compatible. À mon avis, c'est au niveau local aussi.
Parce que c'est pas l'argument, laissons-les tranquilles. Moi, je l'ai employé pendant longtemps, mais aujourd'hui, je fais mon mieux pour pas l'employer. Je préfère dire, arrêtons de leur nuire, qui en plus est donc à la porte. Hein, ce qui est pas la même chose du tout.
Est-ce que tu as fait un travail ou je sais pas sur ce que venaient chercher les gens quand ils vont dans un cirque? Parce que je sais pas, les singes on les habille, les tigres on cherche surtout à ce qu'ils soient féroces. Je pense qu'il y a aussi quelque chose avec qui a un rapport avec que les gens viennent voir les animaux sauvages. Tu vois, le côté sauvagerie des animaux,
ce que je disais au début,
c'est un ressort pour que les gens aillent voir au cirque, quoi. Donc je veux dire, renforcer peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs qui ont été faits? Je pense que suivant les espèces, les gens viennent chercher des choses.
Ça fait l'exotisme et l'étrange, et c'est vrai qu'il y a tout un truc qui serait intéressant à faire sur l'anthropomorphisme. On nous accuse souvent d'anthropomorphisme, dire le cirque c'est le lieu par excellence de l'anthropomorphisme. Effectivement. Mais vous avez raison.
Il y a écrit un truc très bien, on avait tracté, qui parlait exactement de ça.
Parce que
mais après, Antoine,
parce que les gens du cirque, je pense, quand ils vont faire leur pub pour leur cirque, pour venez dans notre cirque, c'est venez voir les animaux sauvages. Quoi.
Non oui, juste avant que ce soit.
C'est l'exotisme.
Enfin, c'est les zoos, en tout cas, ils font ça, les cirques.
Non, tout à fait, ouais, si.
Mais elle parlait d'autre chose, même. Elle parlait de justement.
L'histoire de.
Oui, il y a ça aussi.
C'est la pétition la plus grosse
d'Europe.
Enfin, moi, ça me frappe toujours à quel point les pétitions par rapport aux animaux, enfin, qui ont un rapport assez direct par rapport aux animaux, sont en réalité tout le temps au centre de l'actualité. Enfin, que ce soit ce truc-là par rapport à l'Europe, que ce soit un des trucs principaux où la France se fait descendre par l'Europe, enfin, c'est des histoires de pêche. C'était des histoires de pêche, ou c'est des histoires de date d'ouverture, enfin, c'est constamment au centre de l'actualité, les manifestations de chasseurs, les histoires aussi de vaches folles, etc. Et qu'en même temps, à la fois la question animale, d'une certaine façon, est complètement au centre de l'actualité, mais les intérêts des animaux là-dedans ne sont jamais mentionnés, enfin, sont toujours considérés comme étant. Enfin, sont systématiquement évacués. C'est-à-dire que quelqu'un va venir dans un débat contre la chasse, et bien immédiatement on va parler d'autre chose que des intérêts des animaux, on va parler des accidents de la chasse, d'écologie, etc. Et que je trouve que cette situation, ce serait vraiment une aubaine pour nous, c'est-à-dire que vraiment les animaux de fait sont au centre de l'actualité. Donc il faut en parler, il faut en profiter, c'est-à-dire que réellement, et je pense que la motivation fondamentale par rapport à ça, c'est que les gens sentent très bien qu'il y a un gros problème dans notre rapport, dans la manière dont on traite les animaux. C'est-à-dire que je pense que réellement, en arrière-plan, la condition, enfin la situation éthique qu'on fait aux animaux, la place qu'on leur fait, les gens sentent que c'est pas bon. Mais en même temps, c'est constamment occulté, et que bon, c'était pour aller dans le sens de ne pas continuer ce truc d'occultation, d'utiliser des arguments qui sont constamment à l'encontre des animaux, parce qu'on a une énorme aubaine. Une espèce de mine d'or qu'on n'utilise pas, quoi. Enfin, qu'on ne sait pas utiliser, mais qui.
Mais dans l'environnement, c'est la même chose, d'ailleurs, parce que c'est un super. Moi, le côté naturaliste m'intéresse beaucoup. C'est vrai que c'est la même chose. Il y a eu un super bouquin qui est sorti, je vous conseille, de Jean-Jacques Génaud, qui s'appelle Écologiquement. Correct ou politiquement contre nature, un truc comme ça, et qui dit effectivement, c'est que même les écolos ne sont plus, même le mot nature, on l'utilise plus, c'est-à-dire qu'on est en train
Ça, c'est bien.
Il y a plein de choses que... Non, mais c'est... mais c'est vrai, l'idée, c'est qu'on est complètement en train de... Il y a des mots qu'on n'utilise plus, parce qu'on parle d'environnement, on parle de développement durable, c'est-à-dire qu'on est à côté de la plaque. Parce que il faut défendre un arbre pour défendre un arbre, pour saboter, et on est obligé de trouver des prétextes de biodiversité, oui. De choses comme ça.
Mais il y a aussi marqué nature, c'est marqué sans fruits.
Hein?
Il y a aussi marqué, c'est plus marqué nature, c'est marqué sans parfum.
Non, mais je veux dire, du coup, c'est-à-dire que même dans les arguments, c'est-à-dire qu'on va occulter le côté, effectivement, de... naturel des choses, quoi. Là, je sais que je suis totalement...
On en fera d'autres des débats.
Mais j'ai écouté hier une conférence de Pierre Rabhi, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi. Et je dis, moi, je trouve extraordinaire ce.
Ah oui, c'est sur le bouffe des animaux.
Mais oui, mais justement, c'est ça me gonfle sérieusement. C'est le côté systématiquement, on voit Pierre Rabhi en bouffant les animaux. Moi, je pourrais voir effectivement, les défenseurs des animaux, plein de gens qui utilisent le nucléaire et qui n'ont rien à foutre et qui ont toujours leur truc branché et qui utilisent le nucléaire.
Oui, c'est par rapport à l'image non-violence.
Le défaut.
Non-violence de
Pierre Rabhi. Il y a des super textes, vous regardez sur Travail Animal, il y a des super textes de Pierre Rabhi sur le respect de l'animal, c'est vrai que.
C'est vrai.
Après, c'est son chemin, je veux dire, il ne faut pas non plus.
Mais Pierre Rabhi, il a une image vachement positive, et c'est vrai qu'il a écrit des belles pages, il écrit bien, mais c'est quelqu'un qui est profondément mystique, il est pour un retour à l'ordre naturel, il est pour un conseil mondial des sages, c'est-à-dire qu'on sait. Il a des idées sur le rôle de la femme en société, par exemple, qui sont plutôt rétrogrades. Par exemple, dans sa campagne présidentielle, il a lancé l'idée qu'il faudrait redonner des avantages aux femmes quand elles ont des enfants, qu'elles s'en occupent, qu'elles n'aient pas besoin de travailler. C'était les mêmes propositions qui avaient été avancées par Le Pen et où tout le monde avait gueulé. Ça n'avait personne à gueuler le plus. Et il y a plein de trucs comme ça quand même. Il y a sur l'idée d'ordre naturel à respecter, mais aussi avec tout ce que ça peut facilement véhiculer.
Ce qui me dérange, c'est toujours le parallèle avec le Front National, parce qu'il y a des choses qu'on peut partager. Il y a un côté politiquement, ça va un peu en rester, mais il y a un côté politiquement vrai, moi, qui me gonfle sérieusement.
Ah non, mais là, je l'ai fait par
parce que moi,
lui, il a une bonne image de marque, et il va dire la même chose que le Front National, mais personne ne va penser à l'attaquer.
Ah bah oui, parce que moi, je partage vraiment ses idées, dans ce cas, je partage peut-être des idées du Front National, je veux dire, il y a un moment, il ne faut pas.
Non, mais ça, c'est légitime ce que tu dis, mais ce que disait Yves, c'est fort. C'est le Front National, donc l'idée est caca.
Il y a des idées caca au Front National, mais qui me font gerber. Je dirais que c'est pour ça que tout ce qu'ils disaient, c'est comme le nazisme. Je veux dire, il y a eu des choses abjectes, c'est pas dire que 100% des choses qu'ils ont fait sont abjectes.
Franck, je suis d'accord avec ça. Ce que je disais, c'était pas ça. C'était que ce que je disais, comme il a une bonne image de Marc, la même chose, il a dit la même chose au Front National, et tout le monde était tombé sur le Front National à ce moment-là.
À cause de cette idée.
Mais c'est pas grand monde qui écoute la radio aussi.
Il a réussi
à avoir 500 signatures, donc faut pas abuser. Il a été très entendu dans des milieux très restreints.
En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté où il faut remettre l'intérêt des humains et la nature au centre avant les préoccupations politiques. Pour moi, c'est central. C'est vrai que quand il dit qu'il faut remettre la nature au centre, peut-être que ça vous dérange, mais moi, c'est en tout cas ce que je partage. Après, je reste ouvert à lire toutes les choses et à essayer de creuser la question, mais il y a un côté...
Juste une question pas complètement sans rapport avec la question du sauvage. Tu as dit que les éléphants, ils n'arrivent pas à créer des contextes où les éléphants sont heureux dans les eaux. Et je me pose la question, est-ce que tu t'es intéressé, est-ce que tu sais quelque chose sur, par exemple, la réserve africaine de Sidon?
Sidon, il y a des troubles de comportement.
Et les troubles de comportement,
toujours, ça ne suffit pas.
Ouais. Et je me pose la question par rapport...
Moins accentué, c'est
par pas. Par rapport au remplacement des animaux, si on arrive à intervenir une espèce, est-ce que c'est un endroit approprié? Est-ce que c'est un endroit... Est-ce que moi, par exemple, si je suis animateur, que j'ai des enfants sous ma responsabilité, est-ce que c'est, et animalement, éthiquement fiable d'emmener des enfants dans un endroit comme ça?
Je dirais que c'est plus la politique. Est-ce que c'est une politique d'étalage d'animaux? Ou alors vous allez au refuge de l'Arche, vous verrez un zoo, quelque part, j'ai les animaux ont des troubles de comportement. Mais sa politique est une politique de replacement d'animaux, il essaye de les sortir, de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais je dirais que tous les animaux ont des troubles de comportement, vous verrez, c'est toujours des cages.
Y compris à Sidon.
Voilà, et à Sidon, le problème, c'est quand même une politique qui n'est pas une politique de remplacement. C'est une politique, on prend l'animal, on l'exploite pour le montrer en vision coloniale aussi, à mon avis. Donc c'est plus l'intention derrière qui est une intention d'exploitation. Alors d'autres, les éléphants dans les cirques, si on les replace, ça sera Sidon, ça sera Thoiry, ça sera faute de mieux, parce qu'il ne faut pas rêver, on ne les replacera pas dans la milieu naturel. Et Achille du cirque Amar, il est dans un centre aux Pays-Bas, c'est pas la forêt congolaise.
Aussi des troubles du comportement dans la nature.
Ouais.
Hein? Oui. Il y a aussi des troubles du comportement dans la nature.
Oui, on trouve que...
Les individus éléphants qui sont pas bien dans la nature.
Avec ce qu'il en reste, là.
Même...
Moi, j'avais entendu, il y a peu de temps, sur France Inter, un vétérinaire qui disait quand même que dans les cirques, maintenant, il n'y avait plus moyen coercitif pour...
Ah oui, j'ai entendu aussi, mais je pense que c'est la cause.
Bah oui, non, mais c'est vrai que France Inter, ça a quand même une position énorme. Quand un vétérinaire, en tout cas, France Inter dit ça...
Il a dit quoi, je peux...
Bah, il a dit qu'en fait, dans les cirques, maintenant, il n'y avait plus moyen coercitif pour former des animaux, pour éduquer les animaux... Ouais.
Mais c'est pour ça que j'essaye de l'expliquer, parce que c'est le... ils n'ont pas le choix, c'est ça. Parce qu'entre l'argument d'un côté, il y en a, ils sont violents, et d'autres, ils vont dire qu'ils ne sont pas violents. Et j'explique, c'est pour ça que c'est important d'expliquer pourquoi ils sont obligés d'être violents. Ce n'est pas qu'ils le veulent, gentils ou méchants, ou quoi que ce soit. C'est que bah, ils sont dans un milieu, de toute façon, où effectivement, alors, les positions contre nature, c'est douloureux, bah, l'animal qui est douloureux, il se défend, c'est tout. Et qu'on est obligé de passer par la coercition, que ce n'est pas... Enfin, c'est toujours le même vétérinaire, de toute façon, qui va dans toutes les émissions, parce qu'il travaille avec les siècles, en fait, avant. Et voilà, je veux dire, les arguments, il faut expliquer.
Il fait des pages web,
hein.
C'est un projet de faire des pages web sur les gens à Libourg, là, c'est ceux qui sont payés par les filières de la viande, pour dire tout ça. Et il faut qu'on fasse des petites pages web pour les journalistes et faire ceux qui s'intéressent aux questions. Quand ils tapent leur nom, ils tombent sur.
Tout à fait, oui.
Sur leur nom. Lui, il s'appelle comment ?
Je sais plus, je vous.
Je peux le
retrouver
parce que j'ai
Bruno. Bruno, je sais plus comment, Bruno Ramfeld ou.
Non, ça c'est lui.
Si.
Non, en tout cas, dans le
cas c'est.
C'est
pas ça.
Un vétérinaire comportementaliste. C'était Claude. Claude Bernard.
Claude Bernard. De retour. Ah bon, il y en a
un. Mais je pense que enfin, par sa locution, il n'était pas spécialement.
D'accord.
Ça fait combien de gens qui travaillent dans les cirques ?
Peut-être tout.
En gros,
combien de gens ?
Le cirque avec l'info.
Je ne sais pas combien de gens. Il y a 206.
Il y en a 250 ?
200 à peu près.
200.
Beaucoup d'enfants.
Il y a entre 1000 et 2000 personnes peut-être.
Oui, c'est quand même assez important. Les écoles dans les cirques et tout ça. Mais après, c'est vrai qu'aussi ceux qui font du dressage, je me suis posé la question. Enfin, domptage, dressage, je ne sais pas si c'est pareil. Il y a quand même une vraie... qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi. C'est vrai qu'ils sont... ceux qui font ça, c'est qu'ils savent faire autre chose. C'est souvent par faute d'être capable de jongler, parce qu'il y a un vrai art des pistes, un vrai art du cirque. Les dresseurs, c'est souvent ceux qui sont absolument capables de rien faire. Et ce que dit le comportementalisme... Non, mais il faut être franc, je veux dire, c'est facile de faire ça quelque part. Et par rapport au comportementalisme, je veux dire, c'est ça. Je dis, Alexis Grius était en caméra cachée, je veux dire, on le voit en train, effectivement, de cette coercition. Donc, je veux dire, c'est... ces arguments. Alors, malheureusement, on ne peut pas se servir de cette vidéo parce qu'elle est prise en caméra cachée. Alexis Grus, c'est une institution, et si on filme le spectacle, c'est.
Un procès
pour vol d'image, machin, le spectacle, etc. Je pense que les associations, il faudrait qu'elles aient un courage de s'en servir quand même. Elles ne veulent pas s'en servir, c'est leur droit. Mais je veux dire, on a les preuves en plus visuelles de ça.
Un procès, c'est bien pour faire de la pub.
Mais moi, je trouve qu'il faut avoir le courage quand on a une association d'avoir les reins pour faire ça, mais bon, ils veulent pas.
Il faut avoir les reins financiers.
Mais les sociétés. Ce qui m'a plus marqué sur le cirque, sur le problème sur lequel je ne peux pas vraiment concerner, ce qui m'a plus marqué, c'est quand j'ai vu une vidéo de Pita sur le dressage des éléphants. Oui. Qui est prise en caméra cachée depuis les serres de la tente, et quand il y a la caméra, j'ai l'impression dans une fente, je ne sais pas. Et maltraiter les éléphants, enfin taper dessus avec la pointe, là, on voit de loin, on ne voit pas précisément, mais on comprend exactement ce qui se passe, c'est très très pénible à regarder. Ouais. Et moi, j'imaginais pas que c'était ça, après ça, je me suis jamais posé la question, donc je n'imaginais pas qu'il y avait quelque chose d'aussi dur, puisqu'on ne parle pas, enfin voilà, tout simplement. Et j'ai l'impression que dans le cirque, tu dis qu'il y a une partie des choses qu'on peut récupérer en vidéo, en filmant dans les cirques, alors déjà, quel livre que tu donnes, moi, qui ne paraissent même pas totalement obligatoire pour la diffusion. Mais après le dressage, ça se fait où, dans quels endroits? Enfin, c'est en France ou c'est derrière le cirque?
Ouais, c'est pendant les heures de... Parce qu'il y a la majorité des cirques, en fait,
c'est sur...
Oui, c'est sûr.
On a vu le dressage.
Ils sont très fermés, on ne peut pas rentrer comme ça. Il n'y a pas de spectateurs, même sans caméra, pendant ces moments-là. C'est ça le problème.
Ça se fait sous chapiteau, évidemment.
Oui, sous chapiteau, mais avec personne, en fait. Ouais. C'est ça. Mais ce que je dis, il suffit d'aller dans le spectacle et on voit, en fait, ce rappel de l'Ancus, par exemple, en permanence. J'ai fait une vidéo là, bah, du coup qu'on n'a pas mis une fois qu'elle a été retirée par One Voice parce qu'il y a cette partie avec Sylvester qui pose problème. Bon. Mais où effectivement on voit des trucs du zoo de Monte Carlo avec la lanière et l'ours assez violent, et c'est en public, je veux dire, il y a des choses qu'on voit en public. Il suffit de le montrer, de le décrypter aux gens, je veux dire, c'est fait avec finesse. Ou les témoignages de Maxime Sénéca, je veux dire, en plus c'est publié dans la presse. Mais bon, faut aussi un petit peu oser, quoi, faire les choses.
La vidéo, il y a aussi la solution de sur Internet, sur un site sans...
Je suis plus responsable, je l'ai fait, j'ai réalisé le truc, mais c'est propriété OneWay.
D'accord.
On va recommencer. Hein.
Sinon, quand tu parlais des origines liées à la colonisation, moi ça m'a fait penser quand la dernière fois que j'étais à Londres, j'ai vu un monument qui est au bord d'un parc, je ne sais plus exactement où c'est, qui a érigé la reine Victoria à la gloire de son épouse, je ne sais plus comment ça s'appelait, la femme, ou tout ça.
Albert,
voilà. Et c'est un élément qui m'a énormément surpris, que j'avais jamais vu d'équivalent en France. Ça monte à une sorte de grande avec la fille de Albert. Ensuite, ça rayonne dans les quatre directions, les quatre points cardinaux, et chaque point cardinal représente un continent et est représenté à la fois par un humain en costume typique, style 1 habillé en indien en Inde, et puis un ou plusieurs animaux qui sont censés être typiques aussi. Quoi. Et il y a à la fois l'humain dans son costume typique et l'animal qui sont là pour symboliser en fait la maîtrise impériale de l'Angleterre et en fait la couronne royale. Et c'est extrêmement fort au niveau symbolique. Et je me demande dans quelle mesure ça devrait être utilisé, ça, comme illustration. Parce que c'est vraiment très clair cette mise en équivalence des animaux et des humains, et de la symbolique de la nature qui est encore. Mais bon, moi, j'ai pas vu de photos à ce moment-là, c'est dommage, quoi. Mais
c'est trouvable sur Internet.
C'est un mouvement qui est connu, ouais.
Et je repensais à un truc, là. Est-ce que tu connais ce mec qui a été dresseur de. Je sais plus si c'est d'éléphants ou de.
Vladimir Derapkin.
Ouais, qui a fait son mea culpa et qui...
Oui, je le connais, je l'avais eu en contact avec lui.
D'abord, tu vois qui c'est, quoi.
Il devait venir en France, en fait, et puis finalement, ça s'est pas fait, non.
Ouais. Parce que ça, c'est aussi...
oui, ça montre que c'est la réalité,
ouais. Lui, il était dedans.
Surtout qu'en France, il y a la majorité des cirques qui sont propriétaires de leurs animaux, et il y a quelques grands cirques qui louent des animaux. Donc, il n'y en a pas tellement maintenant des locations. Mais c'est des locations d'animaux qui peuvent venir effectivement de toute façon souvent aussi. Les ours, notamment, la majorité viennent de Russie. Le cirque phénix, là, qui vient à Paris tous les ans, c'est des Russes aussi, systématiquement. Ou aussi les ours sur patins à glace, c'est le côté. Donc. C'est hallucinant que les gens ne fassent pas le parallèle directement. Que ça les...
C'est choquant quand tu parles de location, c'est marrant ça. Plus que propriété, je trouve. Quand les animaux sont dans le cirque, on ne voit pas la propriété.
Et on les loue avec le
location,
dresseur. On les loue avec le dresseur.
C'est marrant.
Là, c'est l'objet, vraiment. C'est...
Mais ça met plus en valeur que quand on dit propriété à un animal, je crois. Ouais.
Merci. 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 Merci.